Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Gameblog.fr pour un nouveau podcast de la rédaction, podcast numéro 472. Comme chaque semaine, nous allons revenir sur l'actualité brûlante des derniers jours écoulés. Et cette semaine est un peu la semaine de la maladie, des vacances, des gens qui préfèrent rester chez eux.
De l'absence.
Voilà, c'est un peu la semaine de l'absence. Donc nous ne sommes que trois. On s'excuse de n'être
deux malades.
Que trois, dont deux qui ne sont pas encore en train d'agoniser dans leur lit. C'est les deux seuls d'ailleurs, ils sont encore en vivant.
Laissez-nous un petit peu de temps, ça va arriver.
Mais ça devrait pas tarder, donc on en profite. C'est Thomas et Camille qui sont avec moi aujourd'hui pour vous parler de quoi. Eh bien, vous l'aurez peut-être deviné déjà. Pour commencer, de Red Dead Redemption 2, évidemment, jeu qui est paru ce vendredi 26 octobre, pour lequel nous avons livré un test la veille qui, visiblement, a donné des envies, puisque le jeu a l'air de bien se porter.
On un magnifique test, si je puis me permettre, d'ailleurs, que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire.
J'ai pas eu beaucoup de plaisir à
l'écrire. Tu sais bien que je te déteste, donc les compliments ne sont pas gratuits. Vraiment, allez-y, régalez-vous.
Enfin bon, pour un jeu qui a fait un lancement assez puissant, il aurait pu être le win de la semaine, mais là, il est un peu trop tard, malheureusement, au moment où on enregistre, l'info est tombée un peu trop tard. Donc ce sera le premier thème évidemment de cette semaine. Ensuite, eh bien, nous allons nous pencher sur un jeu indépendant. Oui, après un gros blockbuster, on va se pencher sur un jeu indépendant qui s'appelle Return of the Obra Dinn. Pourquoi sur ce jeu en particulier? Parce que 1, Thomas le teste, donc ça fait une bonne raison déjà pour commencer, et 2, c'est le nouveau jeu de Lucas Pope, à savoir le papa de Papers, Please, qui est un jeu culte à bien des égards. Donc il fallait qu'on se penche dessus, on en parle en deuxième thème. Et en troisième thème, eh bien, un autre jeu qui pourrait être culte ou pas, c'est Call of Cthulhu, l'adaptation du jeu de rôle papier-crayon de Chaosium.
Lui-même enfin, inspiré voilà, de Lovecraft.
Évidemment de l'œuvre de Lovecraft. On ne va pas besoin de le préciser, je pense.
Bah si, on
le
précise.
Bon, ok, on va le préciser pour ceux qui ne le savent pas. L'œuvre de Howard Phillips Lovecraft. On verra avec Camille, qui est toujours sur le test alors où on parle et qui a eu beaucoup de mal à ne pas avoir peur tout en restant à la rédac, t'as flippé quand même.
Il a aussi du mal à ne pas commenter ce qu'il entend, hein. Je crois qu'on aussi, a beaucoup entendu parler des répliques de Call of Cthulhu.
Oui, c'est vrai, on en parle évidemment tout à l'heure de l'appel de Cthulhu. Il y a évidemment toutes les autres petites rubriques habituelles qui vont faire leur retour cette semaine, comme il y a 10 ans sur Gameblog, ou l'anniversaire, le hors-jeu à la fin de l'émission. Mais avant tout ça, on passe au win et au fail, évidemment. Et le win de la semaine, Thomas, c'est toi que je regarde. Et il concerne quelqu'un qui win de plus en plus. C'est Sega.
Effectivement. Enfin, quelqu'un ou en tout cas une société.
Non, moi j'aime bien personnifier en fait.
C'est vrai.
Ouais.
Maître Sega en l'occurrence.
Pour moi c'est Maître Sega, absolument.
Maître Sega qui se porte effectivement plutôt bien, puisque vous le savez, on a été abreuvé et sur smartphone et sur plein d'autres consoles et désormais sur Switch de la gamme Sega Ages, qui donc vise à redonner une seconde ou une troisième jeunesse au jeu emblématique de la Mega Drive. Et là c'est Romain qui nous apprend au travers d'une interview qui est parue dans Famitsu, interview de Naoki Horii, président de M2, donc M2,
un studio de Sega,
un studio qui est spécialisé dans le portage en fait d'anciens jeux Sega sur de nouvelles plateformes depuis le début des années 90, et qui a déclaré auprès de Famitsu qu'a priori la Switch serait presque arrivé au bout de la démarche qui vise à émuler parfaitement des jeux de Dreamcast, donc ce qui nous laisserait penser que de nombreux jeux Dreamcast pourraient faire leur apparition sur l'eShop aux côtés de tout un tas de classiques qui sont déjà présents. Donc au vu du succès des vieilleries, des jeux indépendants, de tout ce qui sort sur l'eShop de la Switch, je vous laisse imaginer ce que ça pourrait donner en termes de contenu. Évidemment,
surtout que la Dreamcast n'en manque pas de bons contenus.
De grands jeux d'arcade, de grands RPG aussi. Évidemment, ce n'est pas encore fait, hein. Tout ça n'est qu'un propos rapporté d'une interview de Famitsu, mais a priori, l'affaire est lancée et la console est plutôt en bonne voie pour se rapprocher d'une émulation fidèle au jeu d'origine. Donc à voir où cela va nous mener, sachant que Romain se demande aussi dans sa news si jamais ça ne nous emporterait pas vers des remakes également de jeux Dreamcast, puisque les codes sources sont toujours détenus par Sega, et contrairement à certains dont des séries qui te sont chères, mon cher Camille, avoir le code source ça peut quand même aider à gagner pas mal de temps, si vous voyez ce que je veux dire.
Mais faire des consoles mini ça aide à gagner pas mal de thunes.
Mais après c'est niveau législatif aussi, parce que c'est vrai que un portable Android ou même sur iOS, on peut faire tourner des émulateurs Dreamcast Dreamcast déjà. Donc c'est pas point de vue technique, à mon avis, qui pose problème, c'est vraiment tout ce qui doit être législatif par rapport.
Ou pas. Parce qu'évidemment, on serait sur quelque chose de tout à fait officiel, hein, de déclarer, de tout ce que vous voulez. En tout cas, voilà, on peut peut-être s'attendre dans les mois qui viennent à voir arriver sur l'eShop de la Switch les grands classiques de la Dreamcast qui nous ont tant bercé étant plus ou moins jeunes.
Oh, Sonic Adventure, j'adore ça.
C'est pas celui que j'aurais cité, moi je pense tout de suite à des jeux d'arcade, mais.
Jeu d'arcade.
Commencer par Soul Calibur.
Commencer évidemment par Soul Calibur, un des plus grands jeux de l'histoire. Tout le monde le sait.
Exactement. Bon, je vous parlais de console mini pour Sega, mais là, pour le fail, en fait, c'est une console mini dont on va parler, mon cher Camille, puisque la PlayStation Classic
a livré les 20 jeux qui auraient au lancement.
On en connaissait 5, maintenant on a les 20.
Donc, pour rappeler un peu, la PlayStation mini, c'est donc
PlayStation Classic.
Classic, donc une PlayStation miniature. 35% de la taille de la PlayStation d'origine. Mm-hmm. Elle coûtera 99€ et donc elle sera livrée avec 20 jeux. Est-ce que je liste les 20 jeux.
Maintenant faut qu'on les connaisse. Alors, les 20 jeux. Tu sais quoi, je pense qu'il y aura des réactions pour les premiums qui vont nous voir. Ils vont voir les réactions au nom des jeux et peut-être qu'ils comprendront.
Alors on commence. Battle Arena Toshinden.
Quel intérêt? On ne sait pas.
Voilà. Historique, mais un jeu qui a extrêmement mal vieilli.
Cool Border 2.
Pourquoi pas?
Destruction Derby. Alors ça, je suis plutôt content. C'est vrai que c'était.
Mais pourquoi le 1? On va savoir.
Destruction Derby, c'est pas le cas, effectivement.
Bah pour l'aspect historique aussi, je pense, des premiers jeux de la console.
Bon, Final Fantasy VII, fallait s'y attendre. C'est un grand classique.
Classique. Oui, non, mais heureusement.
C'est le classique, il y a bien un truc à faire.
Heureusement.
Grand Theft Auto, donc GTA 1, premier.
Exactement.
Donc ça, pareil,
c'est
moi,
normal.
Ça, je l'attendais aussi.
Un de mes préférés, même aujourd'hui, titre personnel.
C'est vrai? Toi, tu l'as aimé, toi, à l'époque. Ah, quelle classe.
Il y a Intelligent Cube.
Donc c'était Kurushi, il s'appelait chez nous, qui était un jeu de réflexion dans lequel on doit faire que des cubes ne s'abattent pas sur un personnage en les alignant. Un jeu génial. Mais oui, il l'appelle Intelligent Cube dans la version européenne, c'est un peu bizarre.
Il y a Jumping Flash, je ne sais même pas ce que c'est.
Alors il aurait fallu que tu vois un super rétro. C'est un jeu de plateforme avec un lapin robot, si je me rappelle.
Tout à fait, qui s'appelle Robit.
Est-ce que ça vaut le coup d'y rejouer maintenant?
Écoute, c'est un classique qui a un peu vieilli, mais qui, moi, agit comme une Madeleine de Proust à titre personnel, sachant qu'il y a deux suites également qui étaient sorties, Jumping Flash 2 et Robit Mordu en français dans le texte. Une fois de plus, c'est le premier qui a été choisi par Sony.
Metal Gear Solid, c'est un grand classique.
Indiscutable entre les classiques.
C'est indiscutable. Monsieur Driller.
Ah, bon, alors Mr. Driller, j'ai du mal à comprendre, même si il a connu des adaptations sur à peu près toutes les plateformes, que ça reste du bon jeu.
Je prends sa défense parce que moi j'ai beaucoup joué sur
Dreamcast.
Tout à fait. S'il fallait céder sa place pour accueillir un autre un Siphon Filter, truc qui a vraiment marqué la génération PlayStation, c'est sûr que ce serait Mr. Driller.
Ouais.
Oddworld Abe's Odyssey, donc ça fait un grand classique.
Grand
aussi,
classique, évidemment.
Du jeu de plateforme. Rayman, pareil.
Grand classique.
Classique du jeu de plateforme. Resident Evil, la Director's Cut Edition.
Absolument.
Pareil, ça c'est. On peut grand chose à dire dessus.
Très bonne idée.
Révélation Persona.
Bon, j'ai du mal aussi à imaginer qu'il n'y ait pas des jeux plus importants.
Oui, mais bon, le succès de Persona 5 a fait qu'on est allé chercher un peu plus loin dans le sombre catalogue. Alors, les gens qui vont le découvrir vont apprendre à la dure ce que c'était que Persona à l'époque, parce qu'il est monstrueux, il est monstrueusement difficile, et tout le monde va s'y péter les dents, je pense, y jouer une heure ou deux et complètement le lâcher.
Ridge Racer type 4.
Oui, bon, ça on le savait déjà, c'est pas une surprise.
Super Puzzle Fighter 2.
Pourquoi pas?
Ouais, là j'ai un petit peu de mal à comprendre en l'occurrence, mais...
Pourquoi? Par rapport à la version ou par rapport à...
Oui, parce que j'aurais mis n'importe quel autre jeu en fait à la place de celui-ci. Quoi. Il y a d'autres versions qui sont disponibles et c'est
Oui, c'est le turbo d'ailleurs.
Un jeu auquel je pense spontanément quand tu me dis quels sont les grands classiques de la PlayStation première du nom.
Oui, c'est sûr.
Siphon Filter,
c'est un de mes jeux préférés de la PlayStation.
Un jeu culte aussi, donc voilà. Tekken 3, pareil, c'est un jeu de combat assez culte.
Totalement.
Moi, j'ai beaucoup de souvenirs là-dessus. Tom Clancy Rainbow Six.
C'est incompréhensible.
C'est incompréhensible,
Le jeu sur PC, je veux bien, mais alors sur PS1, c'était une purge et aucun intérêt.
Déjà une purge à l'époque, c'est-à-dire que sur PC, effectivement, j'avais trouvé fabuleux, c'était dingue à quel point c'était réaliste pour l'époque. La version 32 bits, je pense que tout le monde va avoir mal aux yeux et à la tête assez rapidement.
Non, mais ils vont jeter leur manette contre leur écran, il va y avoir des gens qui vont demander un remboursement à cause de ça, quoi. C'est obligé.
On a Twisted Metal.
Alors ça, c'est pour faire plaisir aux Américains, essentiellement, parce que nous, ici, je crois pas que ça ait jamais marché.
Alors, j'ai beaucoup joué le premier, hein. C'est un des seuls auxquels j'ai joué. Il se trouve qu'un de mes amis l'avait à l'époque, donc on l'a saigné. Mais c'est objectivement un jeu plus que moyen, où il n'y a pas beaucoup d'autres intérêts que de défoncer les voitures adverses. C'était rigolo à l'époque, mais je t'avoue qu'aujourd'hui, je ne remettrai pas forcément les mains dessus.
Voilà.
Et
le dernier,
enfin, Wild Arms,
qu'on savait déjà présent à l'intérieur, qui est un super RPG. En plus, pour les gens qui aiment bien les westerns, ça tombe bien, il y a une ambiance tout à fait western dans le jeu.
Mais alors, du
et
coup,
une des meilleures intros de la
PlayStation. Pourquoi un fail du coup?
Et ben, tout pourquoi un fail parce que...
Puisque sur la, cette liste c'est... de 20 jeux, il y en a 6, on va dire 5-6 ah, qui valent le coup. Et le reste, on se demande un peu qui a fait ce choix en fait. D'autant qu'on avait en tête de nombreux jeux.
Ouais. On avait fait une liste nous-mêmes qui était en plus même pas représentative de la liste étendue à laquelle on avait pensé. Dans laquelle il y avait pas mal de jeux. Dans la liste étendue, hein, celle qu'on avait faite en premier jet, où il y avait plus de 20, 30 jeux.
Il y avait une bonne quarantaine de jeux, parce que je crois qu'on a dû la diviser par deux pour arriver 15, à la vingtaine.
Donc, forcément. Donc, voilà,
il y a plein de jeux, quand tu penses aux jeux aux classiques de la PlayStation, tu te dis. C'est pas ceux-là forcément qui deviennent tout de suite en tête. Alors si MGS, etc. Oui
Tekken 3, FF7, il y a plein de jeux effectivement auxquels on pense, mais notamment en termes de JRPG, c'est une console qu'on a accueillie tellement, il y a un nombre d'absents absolument hallucinant. Quoi.
Après, ils ont peut-être pas réussi à négocier les droits pour tout aussi non plus, et puis après, il faut peut-être en faire une deuxième, celle où il y aura les DualShock. Par exemple, puisqu'on le rappelle, 99,99€ pour une console, une mini console, avec des manettes PlayStation première génération, c'est-à-dire celles qui n'avaient même pas de stick analogique ou quoi que ce soit. Je sais pas si pour. D'ailleurs, pour Metal Gear, c'est pas un problème de pas avoir de stick analogique.
Bah, la vue était dessus, donc tu peux quand même. Je pense que ça reste jouable. Hein,
on pouvait pas.
C'est moins précis quand même.
Ah non,
ça va évidemment
c'était
être moins précis.
Avec un bouton de tranche qu'on pouvait explorer un tout petit peu ce qui se passait autour. Ou je confonds avec un autre Metal Gear.
En vue à la première personne, tu veux dire?
Non, en vue du dessus.
Isométrique quand même.
On pouvait pas. On pouvait pas.
Je ne sais plus,
moi non plus.
J'ai pas l'impression que ça va devenir injouable du simple fait qu'il faille jouer à la croix directionnelle.
Ouais.
Mais bon, ça on l'a déjà dit, on est tous d'accord là-dessus. C'est une honte que la DualShock soit absente de ce package.
Et on sait pas si les manettes d'origine seront compatibles avec, non? On
a pas. Bah non, parce que c'est pas les mêmes prises. Ou alors ils vendront des adaptateurs, tu vois. Enfin. Tout est possible.
Et puis je pense que pas grand monde n'a gardé les manettes de PlayStation première du nom en plus.
Ah, mais les DualShock 2 étaient compatibles. Hein.
Ah oui, c'est vrai.
Eh oui, monsieur, il faut le savoir.
Encore faut-il en avoir.
Il nous en reste ici à la rédac des trucs mobiles roses. Voilà. Bon, bref. Écoute, voilà, le fail de la semaine, c'est donc celui-ci. Merci.
Et dites-nous vous aussi quel jeu manque à l'appel, parce que franchement, il y en a énormément. Il y a beaucoup de séries. Je vais pas citer Spyro pour pas te faire de mal, Camille, mais c'est une série à laquelle on pense forcément quand on se remémore les grands classiques de la PlayStation. Donc n'hésitez pas à nous dire ce qui vous peine, ce qui vous chagrine.
Tombi, oui, par exemple.
Tombi, je me doutais bien qu'il n'y serait pas, mais pour moi, c'est un jeu
classique aussi.
C'est un jeu.
J'ai juste revérifié un truc parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas cité. C'était un sondage qu'on vous a soumis justement pour savoir si la liste des jeux qui étaient dans ce PlayStation classique vous convenait. Que je dise pas de bêtises, vous êtes 53% à considérer que moi c'est moyen, contre 11% la grande classe je dis oui, et 34% sérieusement les gens c'est non. Je pense que c'est assez unanime pour dire que ça ne fait pas l'unanimité justement.
Je suis étonné qu'il n'y ait aucun jeu de baston 2D par exemple.
Oui, c'est vrai, Street Fighter 03 aurait été
exactement
qu'on avait cité en premier d'ailleurs dans notre liste étendue, mais bon, c'était la liste étendue.
Enfin voilà, pour 100 balles, je pense que il y a pas mal de gens qui vont sérieusement se poser la question.
Ouais, moi en tout cas je la pose plus.
Et les jeux à licence, les Star Wars etc, on va pas les lister tous, mais il y en a beaucoup de jeux qui ont été grands classiques aussi.
Ah oui, Master of Terrascasi, grand jeu, grand jeu. Bon, on va arrêter avec les blagues, on va passer à un jingle tout simplement. Mon petit Poufi, c'est à toi de jouer. Et oui, il y a 10 ans sur Gameblog, Thomas, il y a 10 ans
et
déjà,
oui,
on était jeunes.
C'est l'heure, tu parles.
Commencer.
J'étais encore à la fac, moi. J'étais encore un fringant
j'étais
étudiant.
J'étais à la fac il y a 20 ans, vieux. Tu te rappelles un petit peu?
Ouais, ça fait mal.
Ouais, c'est
le bac à 15. Bref, tout ça pour vous dire que quelques années plus tard, nous avons, comme chaque semaine, repris l'actualité d'il y a 10 ans sur Gameblog et il y a des choses qui ne changent pas. À savoir qu'à l'époque, un certain Julien Hubert vous parlait déjà d'un de ses jeux de cœur et il s'agissait évidemment de Shenmue. puisqu'une une action était engagée déjà à l'époque qui visait en fait à inonder les boîtes mail des dirigeants de Sega Japan et notamment celle de Yu Suzuki en envoyant des mails et aussi par la poste en envoyant des capsules toys, donc ces jouets que vous récupérez dans les Gachapon, tout comme Ryo le fait dans Shenmue, pour demander justement une suite, un vrai Shenmue 3 qui manquait encore à l'appel à l'époque, qui n'est toujours pas sorti évidemment à l'heure où nous enregistrons ce podcast, mais qui est très officiellement prévu pour l'année prochaine. Donc voilà, il y a déjà 10 ans, Julo faisait partie de la Shenmue Task Force et vous
c'est
invitait.
C'est là qu'on voit aussi tout son amour, puisque si on se remet, la plupart des news étaient minuscules à l'époque, et là c'est une news qui fait c'est un pavé. Ah, oui. On sent tout derrière son amour pour la série et...
Et ouais, c'est vrai. Oui, puis il y avait un running gag à l'époque, si je ne m'abuse, dans les podcasts, en tout cas les premiers podcasts de Gameblog, il arrivait toujours à caser Shenmue au moins une fois, quelle que soit la thématique. Donc voilà, c'était il y a déjà 10 ans et il n'a peut-être pas fait pour rien, justement, cette campagne, ce prosélytisme.
Et que les fans se lèvent.
Et que les fans se lèvent. C'était la conclusion de son article. Et voilà, qui a porté ses fruits. Alors je ne sais pas si on le doit uniquement à Julo, mais peut-être. Il aura apporté sa pierre à l'édifice.
Peut-être, je pense qu'il a dû jouer un grand rôle dans ça, comme des directeur de campagne dans les campagnes vénézuéliennes par exemple ou autres, je crois que
il pourra se reconvertir,
il pourra s'en vanter après sur les plateaux télé, absolument, il devrait pouvoir s'en sortir. Il y a deux autres news que tu as été nous chercher, Thomas. Il y en a une qui concerne Mirror's Edge.
Oui, une bien triste nouvelle, puisque quelques semaines après sa sortie, on titrait Mirror's Edge cherche joueur désespérément, puisqu'en fait la nouvelle licence de DICE totalisait 147 000 ventes, donc 87 000 sur Xbox 360 et 60 000 pardon, sur PlayStation 3. Du coup, c'était évidemment très 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 faible par rapport à ce qu'Electronic Arts avait pu investir dessus. Et on sait ce qu'il est advenu derrière, c'est-à-dire que le jeu... il y a une suite qui était prévue à l'épisode original, une suite qui a été annulée pour que finalement on reboot la série avec Catalyst qui est sorti il y a quelques années. Et c'était une bien triste nouvelle, puisqu'il a été, en tout cas de mon point de vue, injustement boudé. Il avait un véritable potentiel où il fallait creuser pour aller chercher un petit peu la substance de Mirror's Edge, qui est il fallait essayer. Si vous ne le voyez pas, Plume fait la tête en ce moment même. Le mode Time Attack déjà à l'époque vous permettait de revisiter des niveaux et de trouver beaucoup de chemins alternatifs. Il y avait des choses assez intéressantes. Bon, en tout cas, le jeu n'a pas rencontré son public, puisque c'était quand même assez faiblard en termes de vente. Et on sait qu'il a fallu attendre
de nombreuses années,
pas 10 ans mais presque, pour voir une véritable suite arriver, suite qui n'était pas fantastique non plus, qui du coup n'a pas été couronnée de succès.
Mais ils ont sorti ça en plus entre deux gros mastodontes, ils ont sorti ça entre Battlefield Bad Company 2 et Battlefield 3, et du coup c'était un peu le jeu l'ovni en fait de chez DICE qui sortait, et on s'attendait pas à ce type de jeu là, parce que
c'était une année un peu compliquée aussi, je crois, de toute manière. En 2008 il y avait Dead Space qui était sorti en même temps, qui était considéré comme un four, alors qu'en fait il s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires si je me rappelle, donc ça allait plutôt pas mal. C'est vrai qu'ils ont eu des lancements très compliqués tous les deux, et 2008 dans mes souvenirs 2008 c'était quand même une année assez chargée.
Oui, la fin d'année était assez chargée. Moi ce qui me peine, c'est que j'étais très naïf en fait à l'époque, et je pense après avoir joué à Mirror's Edge, je me suis dit que la donne ne serait plus la même, et que dans tous les FPS désormais on aurait du body awareness, puisque c'était l'une des spécificités du titre, que vous aviez conscience de votre propre corps, vous n'étiez pas une caméra sur un piquet qui flottait comme ça dans les airs. Et 10 ans plus tard, on peut dire que quasiment personne en fait n'a repris cette mécanique du body awareness.
Pas tout le monde, non. Il y a Dying Light qui est un peu l'héritier de Mirror's Edge.
Exception faite de Dying Light. C'est quelque chose qui m'a vraiment surpris, parce que moi j'étais persuadé que ce serait une étape véritablement dans le FPS, et que personne ne reviendrait en arrière.
Le body, Battlefield le fait, hein.
Oui, mais il y a deux exceptions. Il y a Dying Light, Battlefield, et pour tout le reste, on rêve.
Oui, il y en a de temps en temps, mais c'est pas.
On continue à avoir un bout de flingue à l'écran et d'incarner une caméra qui vole comme ça. C'est un peu dommage.
Il me semble que Call of le fait aussi. Black Ops, il le fait
probablement.
Aussi.
Probablement.
Maintenant, les FPS modernes le font quand même. De plus en plus.
En tout cas, ils essayent.
Ils essayent de le faire. Mais c'est vrai que ça apporte beaucoup à l'immersion. Enfin, c'est quelque chose qui est très important, surtout en multi, où du coup on voit pas son personnage. Enfin, solo c'est différent, t'as les cinématiques, etc. Donc tu sais qui tu joues, tu vois. Mais en multijoueur, pour vraiment prendre conscience qu'on joue quelqu'un, c'est vrai que c'est important de voir ses jambes, voir ses fins. Pour moi, c'est hyper important.
Ce que DICE avait très bien fait. Et on termine par une. Une news qui est aussi une petite blagounette pour nous, puisque à l'époque, le 24 novembre 2008, à 5h03 du matin, Raon postait un article assez long qui expliquait en fait la toute nouvelle version de Gameblog, avec ses nombreuses fonctionnalités, puisque ça devait être, j'imagine à l'époque, la V2.
2007, oui, donc ça devait être la V2, effectivement.
Avec voilà tout un tas de filtres, vous voyez les consoles qui faisaient l'actu à l'époque, hein, la 360, la Wii, la PSP, entre autres, une nouvelle fonctionnalité de recherche dynamique, enfin bref, un site qui faisait peau neuve, et avec plein de nouvelles fonctionnalités, des menus dynamiques sur la droite, au niveau des news, etc., une fonction pour écouter les podcasts et continuer à naviguer. Tout ça, c'était il y a 10 ans, et ouais. Bah, nous, 10 ans plus tard, on vous promet la V4 qui va arriver.
Un jour,
restez connectés, restez patients, ça finira par arriver, c'est promis.
Un jour,
voilà,
un jour,
ça devrait tomber. Petit clin d'œil.
Et ben, merci pour ce clin d'œil, j'ai envie de dire. Et maintenant qu'on a fait le win, le fail et il y a 10 ans sur Gameblog, on va pouvoir passer au thème de la semaine. Tous ensemble, le premier thème, sans surprise, c'est rouge, c'est mort et ça cherche un petit peu à se racheter. C'est Red Dead Redemption 2 que j'ai eu la chance de tester pour Gameblog, donc ça fait un peu bizarre à chaque fois, je vous le dis, quand l'host se met à être la personne qui va monopoliser la parole, donc ça va plutôt être Thomas et Camille qui vont jouer les curieux pour changer.
Exact.
Et
moi, je vais pas jouer les curieux, je suis curieux.
Ah,
tout simplement.
Peut-être tu as eu l'occasion de le commencer un petit peu, non?
Oui, mais je ne me prononcerai pas dessus parce que j'ai vraiment juste lancé le jeu histoire de voir. Quoi.
Parce que Poufy, lui, Poufy, lui, c'est la conjonctivite, donc il vient pas à côté de nous pour ça. Sinon, il aurait pris le micro et il nous aurait dit aussi ce qu'il en pensait. Vous doutez bien.
Il pense que les sous-titres sont trop petits, du coup.
Oui,
ça lui
maintenant,
fait mal
oui.
aux yeux.
Avec des yeux tout rouges, oui, ça doit être compliqué. Donc, sorti ce vendredi 26 octobre, ça faisait quelques années qu'on attendait ce jeu. Il est entouré d'un soupçon de scandale à cause des déclarations de Dan Houser, cofondateur de Rockstar, qui s'est exprimé sur tous les chiffres mirobolants du jeu, à savoir 300 000 animations, plus de 1000 acteurs employés, etc., etc., 2000 pages de script rien que pour la campagne principale. Bref, des chiffres mirobolants dont les 100 heures. Auquel il a ajouté 100 heures de travail par semaine le concernant sur le scénario avec les trois autres co-scénaristes, ce qui avait fait hurler à juste titre l'industrie du jeu vidéo, puisque le crunch time, c'est pas vraiment quelque chose que on recommande physiquement, intellectuellement.
C'est surtout normalement exceptionnel et réservé aux fins de développement, et là il se trouve que au vu
c'est
de l'enquête
banalisé.
De Kotaku, le crunch est plutôt généralisé effectivement chez Rockstar.
Allez lire l'article de Jason Schreier sur Kotaku et allez lire aussi celui d'Eurogamer, parce que Eurogamer aussi a fait sa petite enquête en interrogeant des anciens employés de Rockstar et des employés qui sont encore en poste aujourd'hui. La plupart préfèrent garder l'anonymat parce que même si on a ouvert les vannes, paraît-il, du côté de chez Rockstar, il semblerait que ce soit un peu compliqué quand même de dire exactement quelles sont les conditions de travail.
On imagine
actuelles.
L'ambiance en ce moment. Hein.
Oui, on imagine, même si, bon, avec les ventes du jeu, ça doit. Et au moins, ils sont contents que leur travail trouve une juste récompense à la fin. Mais c'est vrai qu'on le rappelle, comme la semaine dernière, on le rappelle, rien ne justifie, quelle que soit la qualité du jeu, rien ne justifie que des gens subissent des pressions pour travailler plus que ce qui est possible physiquement et intellectuellement. Donc voilà, ça on va le rappeler vite fait en préambule et maintenant on va pouvoir attaquer le jeu.
C'était nécessaire parce que ça a fait aussi l'actualité du jeu juste avant sa sortie.
Ouais, et ça fait partie des griefs qu'on lui attribue aussi pour expliquer que bah, finalement en fait c'est pas un si grand jeu que ça. Bref, je vous l'ai dit dans le test. C'est une merveille. C'est le nouveau patron du jeu d'action en monde ouvert. Alors jeu d'action, aventure, exploration, dans un style très différent de Breath of the Wild, évidemment, dans un style très Rockstar, un style qui peut ne pas plaire à tout le monde. D'ailleurs, je pense que Rockstar s'en bat les steaks, pour parler poliment. C'est-à-dire qu'ils font une proposition. Disent voilà, c'est une évolution de tout ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude dans nos mondes ouverts, une évolution de GTA V, une évolution de Red Dead Redemption, avec des mécaniques qui sont approfondies, avec pour ces mécaniques approfondies, une maniabilité peut-être pour certains qui paraîtra un peu lourde. En tout cas, ceux qui ne suivront pas le tutoriel au début, tutoriel qui a le malheur d'être affiché en haut à gauche en même temps qu'il y a les sous-titres, bref, ça c'est un petit peu parmi les trucs qui demandent beaucoup d'attention, qui moi m'ont pas forcément choqué, mais je remarque dans les commentaires et notamment sur notre Discord aussi qu'il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui s'en plaignent. Mais une fois qu'on a accepté
un petit peu aussi, ouais, c'est vrai.
Une fois qu'on a accepté la proposition de Rockstar, donc les règles du jeu, hein, c'est comme quand on entre dans n'importe quel jeu, il y a des règles qui ont été édictées. Si on les accepte, ce jeu est tout simplement impossible à lâcher du début jusqu'à la fin. Et en plus, il fait tout pour pas qu'on le lâche, que ce soit en termes de réal, en termes de sound design, en termes d'ambiance, en termes d'acting, en termes de scénar, en termes de narration, en termes de construction des missions, en termes de divertissement, de distraction dans le monde gigantesque qu'il propose. Tout est fait pour que vous ne le lâchiez jamais et que ça devienne un petit peu à l'image d'une bonne série HBO qui durerait environ 10 saisons, ou même les épisodes de remplissage arriveraient à vous passionner. C'est un peu ce style-là, ça dure... Allez, 70-80 heures pour moi en presque ligne droite parce que je me suis fait happer par des missions annexes sans trop le vouloir par moment. Mais c'est un truc absolument colossal.
Mais en prenant son temps, je pense qu'il est moyen d'atteindre les 100 heures facilement.
Oh bah en prenant ton temps, mais déjà j'ai fait les 100 heures, je pense, après en ayant continué un petit peu ma partie sur PS4 Pro. Mais là, j'ai recommencé sur Xbox One X une vraie partie. Là, je vais pouvoir prendre mon temps. Je pense que je vais y passer un an. Mais genre un an, tu vois, en jouant raisonnablement.
Jusqu'à
quoi.
La version PC.
Exactement, jusqu'à la version PC où il y aura forcément un editor mode pour faire ses propres clips, etc., etc. Et puis je pourrais aussi parler de la version Red Dead. Enfin, on pourra aussi parler de Red Dead Online qui est même pas disponible encore avec le jeu et qui va sûrement faire vendre encore plus le jeu.
Il y a une date d'ailleurs pour ça.
Ça sera en novembre pour la bêta et on ne sait rien encore dessus. Ça se trouve, ça va être un coup d'accélérateur supplémentaire pour faire que le jeu attire encore plus de monde. Parce que GTA V, GTA Online a été un propulseur. Le truc qui fait que les 100 millions sont pas loin pour GTA V, c'est GTA Online.
Et tu sais que la version PC de GTA V, c'est plus vendu que la version console?
Non.
Si, sur Steam, c'est incroyable.
C'est 10 millions d'exemplaires sur Steam, c'est ça?
Ouais, c'est un truc comme ça.
Bon,
c'est...
ça représente rien par rapport à toutes les consoles.
C'est plus que certaines consoles. Plus que sur la Xbox.
Bah, que sur DS, oui, je veux bien, mais ouais, sur PS.
Plus que sur la Xbox, je sais.
Sur la Xbox One?
Ouais.
Oh, bah, c'est possible, oui. Bon, après, voilà, donc, c'est la PS4, ouais. La main.
Donc,
la
ça, main non, mais je veux dire, ça prouve bien que, voilà, enfin, il y a aussi.
Oui, toi, tu parles du potentiel et du public qu'il y a derrière.
Oui, mais c'est vrai qu'on avait eu des échos. On avait eu des. Comment dire. Des certaines personnes qui se demandaient pourquoi la version PC, etc. Et au final, c'est vrai que sur PC, ça s'est bien vendu. Sur Steam, il est resté très longtemps en haut des charts.
Mais il est toujours d'ailleurs. Tous les mois, généralement, il revient en haut. En passant devant les gros jeux qui font genre PUBG, tous ces qui font l'actu, ça revient toujours devant GTA 5.
Bon, donc j'ai fait un résumé rapide. Maintenant, voilà, vous avez sûrement des questions, toi et Camille.
Tu parlais du rythme, tu parlais du fait d'y jouer sur la durée. C'est ce que je pense faire aussi, vraiment le savourer sur le long terme. Et justement, est-ce que c'est un jeu qui te laisse le loisir de faire tes sessions comme toi tu l'entends? Est-ce que tu peux y jouer 45 minutes comme ça rapidement, ou est-ce que c'est un jeu dans lequel tu t'immerges, tu te plonges pour plusieurs heures à chaque fois?
Si tu veux jouer 45 minutes, je pense que c'est cuit. Parce que c'est un jeu qui se gausse un petit peu des modes de consommation actuels. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de faire des jeux justement beaucoup, hein, de jeux où les missions durent très brièvement. Je prends un Assassin's Creed ou même un Horizon ou même un Spider-Man, c'est pas des missions très très longues à chaque fois.
Ou Breath of the Wild où tu pouvais te balader, découvrir un shrine et puis arrêter là, voilà.
Exactement. Là, vraiment, tout est fait pour que tu prennes ton temps, tu sois à un moment sur la route qui te menait à ta mission, que tu sais que tu peux actionner d'ailleurs, hein, parce que même si ça reste assez coulé et assez fluide, tu sais ce qui va être enclenchable ou pas. Sur la route de ta mission, tout d'un coup, hop, t'entends un appel à l'aide, quelqu'un qui s'est pris le pied dans un piège à loup ou une connerie dans le style, ou une diligence, tu te dis tiens, si je braquais cette diligence pour me faire un peu d'argent, ou ah tiens, j'ai aperçu un cerf là-bas. En plus, après avoir analysé rapidement le cerf, je me rends compte que c'est un cerf 3 étoiles, donc de très très bonne qualité, assez rare même. Donc si je lui colle une petite flèche entre les deux yeux, je vais pouvoir récupérer de la bonne viande et en plus avoir une bonne peau pour faire de l'artisanat avec.
Mais pour ça, il va falloir prendre son temps, gérer son approche, etc.
Il faut toujours prendre son temps.
C'est plutôt un jeu qui va te faire perdre de la notion du temps réel.
Exactement.
Finalement.
C'est un jeu à immersion absolue. C'est-à-dire que tu ne peux pas rentrer dans Red Dead Redemption 2 comme tu rentres dans un jeu vidéo. Là, tu rentres vraiment comme dans un monde. C'est comme on en parlait dans le podcast de Patrick Béja dans lequel j'étais invité hier. C'est Westworld. Voilà, c'est tu vis tu vis, c'est Vie ma vie d'Arthur Morgan, hors la loi, en 1899. C'est vraiment, non, malheureusement, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps et qui veulent faire par courtes sessions, alors c'est bien, vous pourrez faire un peu de chasse et un peu de cueillette, mais si vous voulez vraiment vous faire des sessions, enfin quelque chose que vous sentez complet, malheureusement il faudra peut-être 2-3 heures pour vous dire ah là j'ai accompli au moins un petit truc quoi.
C'est donc un jeu d'une certaine exigence.
Complètement. En plus d'avoir une exigence en termes de maniabilité et de concentration, parce que il faut vraiment suivre, comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment suivre tout ce qu'il est possible de faire et prendre ses habitudes. Oui, Camille.
Je me rappelle de ce trailer, donc pour les prénoms qu'on peut avoir actuellement.
Ouais.
Oui, justement, il mettait un point sur la vie en fait, la vie du monde ouvert. Du coup, qu'est-ce qu'il en est de ça? Est-ce que il y a beaucoup d'animaux? Est-ce que tu rencontres beaucoup de gens sur les routes?
Tout le temps. En fait, t'es jamais seul.
T'es jamais seul.
Il y a pas de moment où il y a pas au moins un cri d'animal ou même ne serait-ce qu'une mouche pour juste à côté de toi. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe, mais c'est pas Far Cry 5. C'est pas quelque chose qui est dirigé contre toi.
C'est leur vie, ils font leur vie.
C'est la vie. Voilà, c'est une vie qui évolue partout, que ce soit même le train, hein, voilà, on le voit à l'écran.
Donc il y a des gens qui sont dedans, qui font leur trajet,
qui font leur
vie, machin, ouais.
Des animaux que tu vas croiser à chaque fois, il y aura si tu te balades au bord d'un lac aux bonnes heures, tu verras que tu déranges des oies qui étaient au bord et qui vont s'envoler, tout en voyant aussi des cerfs, des biches qui étaient en train de brouter tranquillement.
Ça veut dire que t'as pas cette sensation d'être le centre du monde en fait. T'es un personnage.
Ah mais t'es pas
enfin entre guillemets lambda, mais comme les autres dans cet univers où tout le monde va qu'à ses occupations.
Exactement.
Humains comme animaux.
Tu n'es plus
tu parlais de Far Cry 5 juste avant, t'as l'impression que le monde entier
en a après toi.
Voilà, en a après toi.
Ouais, bah c'était le but hein, d'ailleurs de Far Cry 5, vraiment c'était que l'emmerdement maximum sur toi quoi qu'il arrive, ne jamais te laisser tranquille. Là, c'est pas du tout le but c'est te laisser faire tout ce que tu veux dans un monde où chacun a sa petite vie et où toi tu n'es finalement que Arthur Morgan, et d'ailleurs on te fait comprendre que tu n'es pas comme John Marston dans le Red Dead Redemption, dans une quête solitaire, t'es dans une quête collective cette fois, puisque tu fais partie d'une bande et qu'il va falloir essayer de subvenir à ses besoins et qu'il y a une gestion du camp, il y a des gens avec qui il va falloir que tu parles, il y a énormément d'interactions avec des PNJ, mais avec tous les gens de ton crew avec qui tu fais des trucs pas forcément très très légaux. Il y a des interactions tout le temps, il y a
pour
des gens
leur survie aussi.
Exactement.
Parce que t'es un peu en fuite permanente finalement.
Bah c'est 1899, c'est le moment où les bandits ne sont plus ceux qui portent des flingues, mais ceux qui ont un stylo et un chéquier dans la main, voilà. C'est ça aussi qui est forcément noté aussi dans le jeu, c'est que c'est surtout les autorités, les banques, l'armée. Voilà, c'est une transition d'une époque où déjà la loi essaye d'être structurée, mais elle est structurée pour les puissants évidemment, pour certaines castes, et du coup les porte-flingues sont en train de s'éteindre, et c'est ça qu'on vit vraiment, c'est le crépuscule d'une époque, encore plus je trouve qu'avec le premier, parce que c'est beaucoup plus développé.
Oui, c'est la fin d'une ère en fait.
Oui, c'est
avec l'ouest qui s'urbanise au fur et à mesure.
Absolument.
Tu parlais justement de la quête du premier. Pour les gens comme moi, puisqu'il y en a qui n'ont pas fait justement Red Dead Redemption, comment est-ce que tu vas profiter justement de celui-ci? Est-ce que tu vas juste louper des petites références ou des choses qui vont permettre de comprendre un peu mieux les motivations du personnage dans le premier, ou est-ce que tu vas de temps en temps pas du tout comprendre ce qui se passe? Comment est-ce que ça a été pensé justement?
Tu peux y jouer à part, il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas joué à Red Dead Redemption 1, celui-ci se vit du début jusqu'à la fin sans aucun souci. Mais si tu as joué à Red Dead Redemption 1 par contre, et que tu l'as aimé et que tu as été jusqu'au bout, tu vas comprendre beaucoup 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 de choses, des choses qui étaient à peine survolées dans le 1 ou traitées pour nous à l'époque en 2010, traitées avec justesse en termes de dialogue, de narration et de mise en scène, c'était plutôt bien. Mais tu te rends compte quand même que la plupart des personnages qui sont que tu chassais dans Red Dead Redemption et qui font partie de la bande là dans Red Dead Redemption 2, tu les apercevais une minute, deux minutes peut-être dans Red Dead Redemption 1, et là ils sont, tu peux développer des choses, des vrais liens avec eux, tu peux vraiment approfondir, savoir ce qu'il en est d'eux, quoi, tout oui, simplement.
Tu vas découvrir leur personnalité, leur histoire, leur motivation,
exactement,
etc.
Dont Dutch Van Der Linde, donc qui est le grand boss de ce gang, qui est vraiment mais un personnage fascinant, dont tu comprends le pouvoir magnétique en fait, qui était expliqué dans le 1, mais tu pouvais à peine ressentir parce que c'était juste le grand méchant derrière qui tu devais courir et à la fin essayer de lui coller une balle entre les yeux, quoi. Donc encore une fois, un aspect qui est extrêmement développé et justement qui permet de donner encore un autre sens au premier. Je trouve que ça aide justement le premier à se sentir encore plus fort.
Désolé, c'est pas trop transition avec ce que tu as demandé, mais
vas-y.
Deux autres questions sur le monde ouvert. Alors ouais. Déjà, est-ce que des fois t'as des moments de vraiment de tranquillité où tu peux passer d'un point A à un point B et
oui.
prendre le temps à cheval d'admirer le paysage, enfin tu sais, où t'as vraiment des grands environnements
oui.
où tu mets longtemps pour passer d'une ville à une autre et que tu te dis je suis tranquille pendant un laps de temps et je peux faire un peu.
Alors tu peux parfaitement, ce qu'ils ont mis en place, ça s'appelle le mode vue cinéma.
D'accord.
En fait, quand tu veux aller d'un point A à un point B, t'es sur ton cheval, tu te dis je vais y aller mollo en restant appuyé sur la touche croix sur PlayStation 4 et A sur Xbox One, et donc ça te met donc à une allure automatique, et si tu enclenches cette vue cinéma, c'est la touche select sur Xbox One ou le pavé tactile sur PS4, tu te retrouves avec une caméra façon ciné avec des plans qui vont s'enchaîner de manière très cinématographique, des beaux panoramas, etc. Et toi, tu ne fais rien.
D'accord.
En fait, tu fais juste qu'appuyer sur le bouton pour que le cheval reste sur sa trajectoire. Alors, ça faisait partie des moins que j'ai mis, c'est que parfois, on se retrouve avec des trucs où le cheval va à l'opposé du chemin où il devait aller, ou alors. Au lieu d'éviter une diligence ou un arbre, il va se les prendre en pleine tronche. Et la physique du cheval est rigolote, hein, mais je peux comprendre les gens qui, au bout d'un moment, sont un peu fatigués de voir leur cheval s'encastrer sur quelque chose et mourir derrière.
Il y a déjà pas mal de gifs qui pop justement là-dessus. Après, c'est un problème récurrent.
Le pathfinding est un problème très difficile.
Pour être encore un peu sur Odyssey en ce moment où tu passes beaucoup de temps à cheval, c'est pareil, il y a des soucis de pathfinding au niveau des parcours. C'est encore un truc qui demande à être approfondi justement dans le domaine du jeu vidéo.
Mais du coup, c'est grand ou pas ? Est-ce que c'est grand ? Est-ce que c'est des grands environnements ?
Ah oui, c'est des grands environnements très variés surtout. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des rocheuses. On va aller dans des bayous, des marais qui font un peu plus Louisiane, Mississippi. Après, je ne peux pas vous dire tout sur la map non plus. Hein, mais...
Il y a une vraie transition entre les deux où c'est.
Oui.
C'est-à-dire, c'est pas en mode dégueulasse, genre on est dans les plaines et puis d'un coup on se retrouve
dans les rues surréalistes, concentrés.
Quand tu commences le jeu dans les montagnes, quand tu veux descendre un petit peu, tu sens justement la neige, enfin tu vois la neige
s'estomper,
fondue, s'estomper, tu passes dans des nuages, donc forcément il y a un peu de brouillard aussi pour habiller tout ça.
Assurer la transition aussi.
Tu sens effectivement, le 1, lui, était peut-être un peu plus sec, justement, entre les différentes régions. Ici, tu le sens pas du tout, quoi. Tu sens que t'arrives petit à petit vers un autre environnement.
D'accord. Parce que c'est une genre de question qui sont un peu stupides et qu'on se pose souvent. C'est combien. Bon, si tu devais traverser la map de part en part, combien de temps tu mettrais
Je pourrais pas te le dire.
Ouais,
parce que j'ai pas osé. Ça, je pense qu'il y a quelqu'un qui le fera en timelapse dans pas longtemps.
Mais tu penses que ça se compte en.
En plusieurs dizaines de minutes.
Ouais.
Oui. Oui, je pense que. Après, si on le fait soi-même à pied, je pense qu'on va, on va commencer à compter en heures. Si on le fait.
Elle est pour toi, celle-là.
Si on le fait en cheval, mais. Alors si on suit une route plusieurs dizaines de minutes, je pense, si on essaye tout droit, à mon avis ça va pas être possible, donc ça sera vraiment les gens qui vont s'en occuper, je les admire, merci. Voilà, et bon courage, mais moi je pense que c'est plusieurs dizaines de minutes facile.
D'accord. Parce que excuse-moi si tu voulais une autre question aussi, tu vois, sur le monde ouvert, est-ce que le cycle jour-nuit a une influence dans le sens où certains PNJ ne sortent que la nuit, ou tu vas faire
des animaux
que la nuit? D'accord.
Ouais, bien sûr, oui, tout a une influence. Et d'ailleurs, chose qui est très bien, c'est dans celui-ci on peut choisir, quand on va faire une petite sieste, on peut choisir à quel moment on va se réveiller. Pour justement, y a des missions qui n'apparaîtront que le jour et d'autres que la nuit, et qu'il faudra faire attention à bien gérer ça, d'autant que quand tu fais des cambriolages, Et ça peut arriver de temps en temps, il vaut mieux faire ça la nuit parce que pendant que ça pionce, d'ailleurs, c'est, des, okay. C'est le genre de mission que je préfère dans le jeu.
Tu peux te faire surprendre d'ailleurs au réveil de temps à autre quand si tu n'es pas assez précautionneux.
Il faut savoir qu'il y a des bandes rivales dans chacune des régions du jeu et qu'elles ont toutes des sbires qui traînent. Alors il y en a qui vont te tendre des embuscades, tu seras tranquillement en train de te balader à cheval et puis tout d'un coup t'as une dizaine de gars qui seront autour de toi et c'est le moment où tu paniques et donc tu vas faire à peu près n'importe quoi. Et il y a des moments où effectivement tu dresses ton petit feu de camp pour te reposer, où tu vas te faire un petit peu de viande grillée pour regagner un peu de force, parce que on l'a pas dit mais c'est un jeu qui est très simulation, qui creuse beaucoup son rapport avec le cheval qu'il va falloir entretenir, avec les armes qu'il va falloir entretenir, avec le héros qu'il faut entretenir, faut pas oublier de le nourrir, faut pas oublier de dormir, faut pas oublier
de se laver
aussi,
de s'équiper en fonction du temps aussi,
il faut tout faire,
d'être couvert quand il
Exactement.
Fait froid, etc.
comme dans Zelda,
ça rentre en compte, ça,
absolument.
La chaleur et tout,
tout est pris en compte.
Et qu'est-ce qui se passe du coup si ton personnage a froid ou quoi?
Il perd de l'énergie tout simplement.
D'accord.
Voilà, parce qu'en fait il y a des noyaux pour chaque chose, pour la vie, l'endurance et le sang-froid, il y a des noyaux qui vont petit à petit baisser en fonction de la fatigue.
D'accord.
Et du coup tu ne regagneras pas des jauges, elles, de vie, d'endurance et de sang-froid rapidement.
D'accord.
Ça sera beaucoup plus compliqué, pareil pour le cheval. Et donc comme je le disais, feu de camp, tu fais tes petits trucs et tout d'un coup tu te réveilles avec un flingue sur la tempe et des mecs d'un gang opposé qui te disent bon toi faut pas que tu oublies ici les patrons c'est nous. Et tiens, on va te prendre un peu d'argent si ça te dérange pas. Et toi, comme t'es au réveil et que t'as pas tes armes sur toi, elles sont sur ton cheval. Parce que c'est le cheval qui porte le reste de tes armes. Pendant que toi, tu n'as droit qu'à deux armes de type fusil et deux colts. Et puis le reste en bâton de dynamite, en couteau, etc.
C'est pas comme dans GTA où tu te trimbales avec un arsenal,
non,
avec la molette.
T'as pas de poche magique.
Non, là, tu vas vers ton cheval et tu t'équipes justement de ce que t'as envie d'avoir.
Comme dans Red Dead Redemption 1, tout ce que tu portes, tu le vois sur le héros.
Physiquement, d'accord.
Et le reste, c'est sur le cheval.
C'est cool, ça.
Ouais. Donc, oui, il faut faire attention quand on fait ces petits feux de camp, effectivement.
Et les animaux aussi peuvent attaquer, je suppose.
Les animaux, alors...
Si on voit des loups, par exemple, dans la vidéo qui attaquent...
Quand tu chasses... Qui est autre chose qui est très important dans le jeu, la chasse, si tu dépaisses un animal ou que tu le déplumes, ensuite il faut l'amener à ton cheval pour avoir la viande, la carcasse, tu le mets sur ton épaule, le sang reste sur ton épaule, le sang va rester sur la croupe de ton cheval et ça sèche, et les prédateurs du coin comme les cougars, ces saloperies de cougars déjà dans le premier qui étaient absolument infernaux à te bondir dessus à n'importe quel moment, eux ils vont avoir envie de te croquer au passage. Ça peut créer des problèmes.
D'accord, moi c'est bien foutu.
Ah oui, c'est extrêmement... En fait, on a l'impression que rien n'a été laissé au hasard. Et toi, Camille, en particulier, je vois ça en même temps qu'on voit le trailer avec des armes différentes, mais le gameplay des gunfights est vraiment très plaisant.
Ouais, le recul plus... des armes, etc. C'est...
Le recul des armes, je pense qu'il te plaira énormément. Le fait aussi que le rechargement est vraiment une importance, c'est-à-dire que si vous bourrinez pendant un gunfight et que vous voulez absolument enchaîner les tirs, il va remettre deux balles par deux balles, quoi, pendant son truc. Ce qui fait que vous êtes un petit peu à chaque fois avec une seconde ou deux secondes dans la vue parce que
D'accord.
vous essayez justement de faire le plus vite possible. Alors que là, non, il faut se planquer, bien prendre le temps de recharger complètement ses armes et ensuite y retourner. C'est beaucoup de gestion aussi pour les gunfights.
Il y a du tir à la Clint Eastwood avec le
Alors tu peux non, celui-ci je l'ai. Attends, si tu t'as le tir à la hanche qui est possible en faisant du R2 rapidement. Donc mais je sais pas s'il fait, je me rappelle plus s'il fait le geste comme ça sur son pistolet, ça doit dépendre aussi des armes avec lesquelles il fait le truc, mais oui, t'as le tir à la hanche super rapide comme ça, mais comme la visée semi-automatique se met pas forcément en place quand c'est le cas, c'est peut-être pas le truc le plus simple, mais bon.
D'accord, mais du coup ça me fait penser à scène emblématique du cinéma notamment où c'est un spaghetti. Est-ce qu'il y a des scènes de duel, parce qu'on en parlait tout à l'heure, et est-ce qu'il y a des scènes de duel vraiment comme dans un western, on s'attend à en avoir, quoi.
Alors ils ont pas repris le gameplay des duels du 1 qui était assez incompréhensible, et du coup on a quelques moments où effectivement on va se retrouver avec des duels Ça, j'en ai pas parlé dans le test parce que je voulais pas trop spoiler.
D'accord.
Mais tu te retrouves à devoir gérer un certain timing pour dégainer. Et là,
avec la vue caméra.
La vue juste derrière le flingue ici, comme
c'est
ça.
Cool, ça.
qui est très bien foutu. J'en dirai pas plus.
Okay.
Mais ça demande un petit doigté, voilà, pour réussir vraiment à faire ce que tu veux. Surtout si toi tu veux pas tuer, mais juste désarmer. Là, au niveau de la visée, c'est très 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 chaud. Et donc, ça marche pas forcément à tous les coups. L'autre truc qu'ils ont arrangé aussi, c'était le domptage, le dressage de chevaux. Là, on n'a pas besoin de faire un rodéo à la con, comme dans le premier, qui pouvait prendre très longtemps.
Ouais.
Cette fois, c'est juste, on apaise le cheval. On attend le moment où il va être un peu plus calme pour s'approcher de lui, le caresser, et là après on pourra enfin profiter un petit peu de ses services, mais c'est mieux, voilà.
Ouais, et là du coup je suis désolé, j'enchaîne les questions, mais ça me fait penser en regardant sur la vidéo, est-ce qu'il y a des effets, comment dire, un peu domino, par exemple, je sais pas, tu peux balancer une grenade dans un combat, ça va mettre le feu, le feu va se propager, est-ce qu'il y a un système comme ça un peu systémique entre guillemets ?
Je crois que le feu ne se propage pas comme dans un Zelda, mais que tu peux quand même avoir des belles petites flammes dans lesquelles toi tu peux te mettre et qui peuvent toucher ton cheval, mais par contre j'ai pas le souvenir que ça soit propagé.
Il n'y a pas de destruction de bâtiment, est-ce que tu peux tirer à travers les murs ou
alors,
les portes ?
Alors tu peux, quand tu es planqué derrière quelque chose, quand quelqu'un est planqué derrière quelque chose, le décor se désagrège avec les balles.
Ah,
petit
putain.
À petit,
okay.
Pas complètement, cool, hein, mais petit à petit, une palissade en bois, si t'es derrière, il y a un moment où tu vois les trucs qui sautent, quoi, comme ça.
Putain, c'est
et pareil
c'est
pour d'autres.
Et tout dépend évidemment de l'arme qui est utilisée dans le camp d'en face. Tu tires sur la palissade au shotgun ou au revolver, ça va évidemment pas avoir
exactement.
Le même impact.
Ah, c'est cool ça.
Ouais, non, ils ont vraiment très très bien pensé leur truc, encore une fois.
Alors, je vais me faire l'écho d'un grief que j'ai pu lire ici et là, que je partage pas, mais qui a été souligné. Absence de doublage français.
Oui,
en
il y a moins 7 pages sur le forum.
Mais je le dis parce que les gens l'ont souligné, etc. Moi, du peu que j'ai joué, j'ai trouvé que l'interprétation était vraiment remarquable. Il y a une patte redneck justement de l'Amérique profonde, etc., qui est hyper intéressante dans l'interprétation. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, justement, toi qui as fait l'aventure principale
Bah déjà, je voudrais dire que je suis pas un fou des VF, mais je comprends qu'on veuille des VF, évidemment, pour certains jeux. Là, faudrait voir quand même que pour avoir une VF sur un jeu comme ça demanderait un boulot monstrueux.
Est-ce qu'on gagne pas en authenticité, justement, à rester sur de l'anglais,
voilà,
de cette période et de cet environnement-là?
Voilà aussi le truc. Moi, je pense qu'on est gagnant à avoir quelque chose qui reste en anglais sous-titré.
C'est comme GTA, quoi. Tu t'imagines pas aller à la banlieue de Los Angeles avoir des mecs qui parlent français?
Tu peux avoir des mecs qui parlent français, mais je préfère avoir quelque chose comme ça avec des sous-titres,
pareil,
que quelque chose en français, ou peut-être qu'on mettrait la pression sur les doubleurs pour qu'ils se dépêchent sans les mettre dans le contexte, comme ça arrive un peu trop souvent, malheureusement, dans la plupart des jeux localisés en français.
Et quel type d'accentuation on aurait pu choisir,
exactement.
Etc.
Exactement.
On aurait été sur quelque chose.
Ubi, comme ils sont francophones.
Oui, mais on aurait été sur quelque chose d'un petit peu anachronique, en fait.
Mais
alors que là, on a une fidélité à l'esprit.
Mais c'est vrai que l'accent, mine de rien, c'est hyper important.
Mais comment tu veux retranscrire, par exemple, les accents dans le jeu, les accents de Javier Escuela, qui est mexicain, je crois que c'est Sean, qui est irlandais.
Bah, sans tomber dans le ridicule,
voilà,
à l'imitation de l'accent mexicain, hola, hola.
Non, mais voilà, tu te retrouves avec, là, tu te retrouves avec des trucs qui sont authentiques, qui sont pas des caricatures, qui sont... probablement,
ouais,
après, j'étais pas vivant moi à l'époque, donc mais probablement comme les personnes de ces nationalités parlaient à l'époque aux États-Unis.
C'est cool ça,
aux États-Unis, oui, c'était les États-Unis à ce moment-là déjà, mais
moi je trouve que pour l'immersion c'est pour moi c'est obligatoire,
ça immerge beaucoup plus. Mais toi, en termes de direction d'acteur, etc.,
c'est fou, je veux dire, la plupart des acteurs, ils sont incroyables. Bon, Arthur Morgan, évidemment, il y a rien à dire sur lui. Je trouve que Dutch Vanderlyn, le doubleur de Dutch Vanderlyn, lui donne vraiment, enfin, cette espèce d'aura de personnage puissant, charismatique, d'un vrai leader, quoi. Juste par la voix, par l'interprétation, il arrive à faire ressentir justement toute la palette d'émotions d'un chef qui commence à douter, qui commence à péter un plomb. Après, j'ai des préférences. Évidemment, on retrouve aussi les doubleurs de John et Abigail de Red Dead Redemption 1, et d'ailleurs qui sont toujours aussi fabuleux. Mais ma préférée, c'est Sadie Adler, un personnage qu'on découvre assez rapidement dans le jeu. On la voit ici là à l'écran, personnage, une blonde avec une natte,
hein,
voilà, qui est un personnage mais d'une vraiment incroyablement sauvage, et qui se... en plus la doubleuse Alex McKenna donc a une espèce de timbre un peu cassé. Qui lui va mais à merveille, et ça, pour moi c'est vraiment le meilleur personnage du jeu. Et, et si d'aventure il devait faire des DLC, je pense vraiment qu'il devrait se diriger vers elle, parce que je vois pas comment
ouais, t'aimerais bien explorer un petit peu son univers aussi,
ouais, mais même les joueurs, je vois pas comment les joueurs ne pourraient ne pas apprécier d'explorer quelque chose avec elle, ça, vu la tournure en plus des événements la concernant, ce serait vraiment le personnage parfait. En fait, quasiment tous les personnages qu'on trouve dans Red Dead Redemption 2, en personnages principaux et secondaires, pourraient servir de base pour des DLC ou un Red Dead Redemption 3.
Ou des spin-offs.
Oui. Exactement.
Et tu penses qu'ils vont en ressortir le DLC avec les zombies ou... bah, est beaucoup fait parler
pourquoi pas, ouais, il était très bien, ouais. Hein, quand il...
Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Parce ouais. C'est...
Undead Nightmare, qui était sorti un peu après Red Dead Redemption, était super.
Bah, vu le cycle d'exploitation des jeux de Rockstar, maintenant on peut s'attendre à ce qu'ils entretiennent celui-ci sur la durée, avec justement des extensions, des modes,
Moi, ce que je verrais bien... mais attention, hein, c'est une supposition, donc j'ai rien du tout. C'est au vu de ce que j'ai aperçu avec le jeu. Ce que je verrais bien, c'est un remake du 1 avec le moteur de celui-ci.
Oh putain, alors là, ça serait
un moteur et peut-être quelques aménagements. Mais je pense qu'ils en seraient capables.
Ça serait ouf, franchement. Ouais, je
sais bien que y a beaucoup de choses qui ont vieilli dans Red Dead Redemption 1, et que là, maintenant, vu tout le taf qu'ils ont abattu pour celui-ci. Et qui a probablement avec Red Dead Online plusieurs années, il a plusieurs années devant lui, et dans, je pense que dans 5 ou 10 ans il sera encore méga beau, parce que on l'a pas trop dit, mais techniquement c'est une vraie baffe, que ce soit sur PS4 Pro, même s'il y a des ralentissements dans certains endroits, c'est vraiment somptueux. Sur PS4 standard c'est magnifique, sur Xbox One X c'est une douceur
comme à chaque fois,
c'est vraiment extraordinaire. Je me dis, un DLC ou un remake du premier Red Dead, il y a moyen de le faire. Et donc,
ça serait somptueux.
Vraiment, je pense que c'est faisable.
Il faut que les gens se lancent dans celui-ci, arrivent au bout.
Ouais.
Puisqu'en plus, t'as l'air de dire que t'es happé, enfin t'es distrait, on va dire, de ton cheminement principal par tout un tas d'objectifs plus ou moins secondaires qui arrivent autour.
Tout en ayant envie de faire ta quête principale. Oui,
c'est un peu comme The Witcher 3 en fait.
Ouais.
Où t'es constamment à courir derrière un lièvre, mais à te dire, ah oui, mais il risque de se passer quelque chose. Et justement, en termes d'écriture, au niveau de tout ce qui est secondaire, additionnel, etc., est-ce qu'on se rapproche d'un CD Projekt au niveau de la profondeur et de la surprise qu'il peut y avoir dans les quêtes?
Bah oui, mais de toute façon, après, c'est Rockstar, encore une fois. CD Projekt, évidemment, est arrivé à frapper très fort avec The Witcher 3 de ce côté-là, et The Witcher 2 aussi, j'arrête pas de leur dire, mais à chaque fois, The Witcher 2 aussi faisait déjà très très fort auparavant.
Ils sont encore cité en exemple justement là-dessus à l'heure actuelle.
Bah oui, mais Rockstar fait du Rockstar de toute façon, donc ils ont jamais été mauvais en écriture, narration et mise en scène. Ils ont même toujours été très très haut par rapport au reste de l'industrie. Donc il y a des quêtes secondaires qui vont te faire beaucoup rire, il y en a d'autres qui vont pas du tout te faire rire, qui vont même te rendre très triste, il y en a d'autres qui vont te faire qui vont t'attendrir par moments aussi. Je pense à celle qui concerne Arthur en particulier. Enfin, il y a toute une palette d'émotions qui passe par la plupart des missions, qu'elles soient annexes ou principales. Et dans les missions annexes, t'as des trucs qui sont très surprenants. Alors d'autres, après c'est un jeu d'action aventure. Hein. Faut pas s'attendre non plus à des trucs complètement fous en termes d'intérêt ou de gameplay des missions. Mais c'est beaucoup d'aller-retour ou de fetch quest, comme on dit. Il y en aura forcément, ou de gunfight, mais après c'est le style du jeu qui veut ça, quoi. Tout simplement, t'auras pas de... Enfin, même si on peut le voir à travers divers autres médias qui en parlent, mais il y a quand même des secrets qui sont placés un peu partout, avec des grosses énigmes pour essayer de découvrir des matos légendaires ou autres. Donc c'est du même niveau que d'habitude avec Rockstar, quoi. Donc
ça m'a l'air bien cool,
excellent,
en
tout simplement.
Mais ouais, j'ai vraiment envie de tout ça.
Ouais. Ça vous fait envie alors?
Achète-toi une console. Ah bah, de revoir en plus les images que Poufy nous passe depuis tout à l'heure, où on voit vraiment ces paysages absolument magnifiques, et puis la période historique est, je trouve, absolument passionnante. La fin d'une ère, c'est toujours super intéressant à observer. Il me manque qu'une chose, c'est d'avoir un tout petit peu de temps. à côté de tous les jeux que j'ai en ce moment, de tous ceux que j'ai mis en pause. Je t'avoue que oui, j'ai très envie d'y jouer, mais j'attends d'avoir un moment propice, surtout par rapport à ce que tu as dit au début de la séquence sur Red Dead Redemption 2, à savoir qu'il faut se réserver des créneaux assez conséquents pour pouvoir véritablement en profiter, s'immerger dedans 2-3 heures, un soir, etc.
Oui, ne le rushez pas.
J'ai vraiment, vraiment envie de me lancer dedans. Et en plus, moi, ça va me renvoyer aux licences Rockstar que j'ai pas côtoyé depuis très longtemps, parce qu'en fait j'ai dit une bêtise, mon dernier c'était Elle est Noire, que j'avais quand même apprécié, mais
Elle est Noire qui est très différent,
oui, qui est très différent, mais voilà, c'est le seul Rockstar que j'avais fait depuis Vice City, donc ça va me renvoyer à quelque chose que j'avais un petit peu laissé de côté.
D'accord.
Et en plus il y a des roues, ce qui est des Irlandais.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, il y a
c'est la classe,
un Irlandais en particulier. Bon, bah, je crois que j'ai pas besoin d'en dire plus, n'est-ce pas, sur Red Dead Redemption 2.
Non, moi, je vous invite une fois de plus à lire le test de Plume, parce que vraiment, il est merveilleusement bien écrit.
Oh,
il y a... Non, mais écoute, je suis désolé, j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de le penser. Et surtout, il n'y a pas de spoil. Donc,
ça, c'est vrai.
Vraiment,
ça, de ce côté-là, je suis d'accord avec
ne
toi.
Ne vous inquiétez pas sur la teneur de ce que vous allez pouvoir lire. Le plaisir de la découverte après est intact à la lecture du test, donc franchement, allez-y. J'ai passé un excellent moment à le lire. Je suis désolé de te lancer des fleurs, mais c'est ce que je pense.
Moi, je préfère qu'on parle du jeu, surtout. C'est surtout le jeu qui mérite qu'on y aille et qu'on ne le rush pas. Hein. J'insiste. J'ai eu droit à des bonnes conditions pour un testeur, en ce qui me concerne. Mais c'était pour un testeur. Donc, jouer 70-80 heures par semaine, c'est pas un truc que je vous conseille de faire. Pour le finir, vraiment, prenez votre temps, savourez-le, quoi. Là, c'est ce que je suis en train de faire maintenant que je suis en train de recommencer sur Xbox One X. Je suis en train de le savourer, je suis en train de faire ce que je veux, au rythme que je veux, et vraiment, ça me permet d'ailleurs de découvrir qu'il est encore meilleur peut-être que ce que j'imaginais je savais à la fin de mon test.
Oui, mais t'es débarrassé de toute pression là, donc forcément.
Mais surtout que je découvre des trucs que j'avais pas vu encore. Donc il y avait des choses, des missions à côté desquelles j'étais passé, des missions de collectibles notamment dont j'avais même pas eu vent à ce moment-là.
Ça veut donc dire une rejouabilité en plus qui est conséquente.
Et voilà,
pour un jeu qui a déjà une durée de vie dantesque.
Exactement. Donc vraiment, après la note, je voudrais revenir sur la note quand même, parce que effectivement je mets 10 sur 10, j'ai une vision tout autre de la note. Déjà, j'aime pas les notes pour commencer, j'ai toujours trouvé que c'était de la merde depuis l'école.
Tu n'es pas le
seul. Je considère, c'est pas pour considérer que le jeu est parfait, encore une fois, j'ai une vision très très différente. C'est pour moi, une note c'est plutôt un conseil, ça veut dire sur une échelle de 1 à 10 à combien je le conseille. Donc je le conseille à 10 sur 10, ça veut dire que j'estime à 0 les chances d'être déçu par ce jeu à la fin. Alors je vais pas vous faire un satisfait ou remboursé, mais vraiment un jour je pense qu'il faudra faire ça avec certains testeurs, tu vois, les motiver, dire écoutez, vous êtes pas content, je vous rembourse. peut-être pas
sur des petits jeux bradés sur Steam ou un
ouais,
truc
voilà.
Comme ça.
Ouais, par exemple. Mais en tout cas voilà, je vous le conseille à 100%. C'est à peu près comme ça qu'il faut prendre la note. Et le mot culte, je sais pas si on devrait le garder quand même, parce que décider qu'un jeu est culte au moment
à sa sortie, c'est compliqué, évidemment.
Oui.
Il faut
donc
forcément un petit peu de recul.
Je pense qu'un jour on devrait avoir cette discussion et décider d'un autre mot ou autre chose, je sais pas.
Rentre vite, Julo.
Oui, rentre vite, Julo, rentre vite, Traz, rentrez tous, qu'on en discute un petit peu. Je crois qu'on a fait le tour, donc, une fois de plus. Et maintenant, on va vous laisser parler, vous. Parce que, en plus, j'ai pas de bouteille d'eau. Putain,
oui, donc tu n'as plus de salive.
Donc je n'ai plus de salive, donc je vais pouvoir choper tous vos microbes encore plus rapidement. Thème numéro 2, non pas numéro 3, comme je peux le lire sur mon papier parce que j'ai fait un mauvais copier-coller. Thomas, on va parler d'un autre jeu au potentiel très fort, mais pour l'instant que tu n'as pas terminé. C'est Return of the Obra Dinn.
Tout à fait.
Un jeu où on incarne un agent d'assurance.
Exactement. On a été habitué avec le premier jeu de Lucas Pope à avoir un espèce de décorum un peu particulier. Là en fait vous arrivez sur l'Obra Dinn, donc navire à la dérive sur lequel l'intégralité de l'équipage s'est fait décimer pour des raisons évidemment très mystérieuses au moment où vous parvenez sur le bateau. Là on est 99 ans avant Red Dead Redemption 2, hein, on est en 1800 pile poil, et on monte à bord donc de ce navire, et votre personnage, cet agent d'assurance, est doté d'une petite montre gousset que Poufy vous fait découvrir en vidéo, qui ne sert pas qu'à donner l'heure mais qui sert à remonter le temps et à explorer en fait les dernières secondes de la vie d'un Maccabée. Donc vous arrivez évidemment sur ce bateau, vous trouvez un corps qui est sur le pont principal, et en activant votre montre, eh ben vous allez revenir au moment où celui-ci a perdu la vie. Donc vous avez évidemment l'image, mais vous avez aussi les sons qui vont être très 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 importants pour comprendre évidemment ce qui s'est passé. Ça peut être des dialogues, ça peut être des cris de douleur, ça peut être des... quelqu'un qui interpelle ou qui voit un autre membre de l'équipage. Et vous allez en fait être muni d'un carnet, enfin c'est même pas un carnet d'ailleurs, c'est un livre parce qu'il y a une bonne centaine de pages, où vous allez devoir retracer en fait rétrospectivement tout ce qui s'est passé sur l'Obradine et pourquoi est-ce que tout l'équipage a été décimé au moment où vous montez dessus. Et c'est du coup...
Et c'est quelques années après en plus.
Voilà. Hein, que, et c'est du coup un jeu d'enquête puisque oui, le bateau était porté disparu depuis vraiment très longtemps. Et en fait, eh bien, vous allez devoir faire preuve de beaucoup, beaucoup d'analyse, de beaucoup d'attention. Et là, vous voyez par exemple un énorme listing puisque vous avez accès... on sait évidemment qui avait embarqué sur le bateau au départ. Donc, on a la liste de tous les passagers, commandant de bord, sous-chef, etc.
Après, pour tous, tu vas devoir dresser
voilà, ça va être
la
à
façon
vous.
Dont ils sont morts, etc. Wow.
Ça va être à vous à chaque fois de vous dire ok alors lui le premier type que vous voyez vous ne savez pas qui il est par contre dites ah mais donc il a été tué par cette personne puisque je peux la reconnaître et donc vous allez commencer à mettre des annotations comme ça dans votre livre de bord pour essayer de savoir qui est qui a tué qui, à quel moment, avec quelle arme, dans quelles conditions, etc. Et donc vous allez en partant de la fin remonter à l'origine de ce qui s'est passé, être évidemment surpris et devoir faire preuve de déduction parce que c'est l'une des grandes qualités à double tranchant de ce jeu, c'est qu'il ne vous aide absolument pas, enfin il vous donne les clés pour y arriver mais ça va être à vous de réfléchir, de reconstituer véritablement ce qui s'est passé, de faire preuve de déduction pour avancer. C'est un jeu qui va pouvoir vous bloquer complètement si vous avez loupé un élément à un moment
c'est
donné.
C'est une enquête pure et dure quoi.
C'est une enquête pure et dure, sans assistance, comme si vous étiez effectivement sur une scène de crime et que seules vos capacités de réflexion vont vous amener à comprendre ce qui s'est passé. C'est une enquête formidable, même si je n'ai pas encore le fin mot de l'histoire. C'est un jeu qui se moque pas de vous en fait et qui est très riche. Alors, qui est évidemment pas dénué de défauts. Certains vont être un petit peu peinés justement par l'absence d'aide. Après, il y a quelques moments où j'ai des griefs, on va dire, sur les formulations, puisque vous avez une espèce de menu défilant. Par exemple, plume. À tuer Camille avec
à l'instant même, si vous voyez en vidéo.
Par balle, par exemple, vous avez des verbes, etc. Il y a des moments où vous voyez la situation et vous regardez dans la liste des verbes, et aucun ne s'y prête véritablement.
Jouer en français ou pas ?
Alors pour l'instant, j'ai joué qu'en anglais sur Steam.
Donc il est peut-être probablement qu'en anglais, comme Papers, Please l'était au départ.
Exactement,
hein, si
donc je ne crois pas qu'il ait encore été traduit. Du coup, évidemment, il faut plutôt bien parler anglais puisque de temps en temps des indices vont vous être donnés à travers une interjection, à travers un truc comme ça qui va passer très très vite mais qui a son importance. De toute façon vous pouvez revivre les scènes à l'infini, hein. Les scènes de crime elles sont pas limitées dans le temps, vous pouvez revenir une fois que vous avez noté, que vous avez enregistré le nom d'une victime dans votre carnet, vous pouvez revenir à sa scène de crime n'importe quand. Mais il y a des moments où on va piffer un tout petit peu. Je sais que tu es le tueur, je sais que Camille est la victime et il va falloir que je cherche le bon verbe. Puisque en fait l'une des mécaniques de Return of the Obradine, c'est que le jeu ne vous valide vos déductions qu'à partir du moment où vous en avez 3 de bonnes sur un chapitre.
D'accord.
Donc il faut déjà que tu sois sûr de toi sur par exemple 2 affaires pour essayer de piffer éventuellement la 3e. Voilà, il y a quelques moments où ça peut être un tout petit peu gênant.
D'accord.
Et ce que je conseille aussi, c'est c'est un jeu qui fait moins d'une dizaine d'heures en termes de durée de vie, mais comme ça vous oblige à avoir véritablement en tête le listing complet de ce qui s'est passé, moi c'est un jeu que je vous conseille de faire sur une période de temps très restreinte, de pas vous éparpiller, de rester véritablement dessus, parce que plus on est dedans et plus on va avoir en tête, on va se familiariser en fait avec cet équipage qu'on connaissait pas du tout, qu'on va finir par connaître véritablement bien. Là on voit la figure du capitaine à l'écran, on va vite comprendre qui il est, qui est son entourage, qui sont ses sous-chefs, sa femme,
etc. Donc contrairement à la tête, vaut mieux le binge. Celui-ci
vaut mieux le binger, d'autant qu'il est bingeable, puisque voilà, c'est moins d'une dizaine d'heures en fonction de vos capacités de réflexion et de déduction pour en voir le bout. C'est le genre de jeu qui va vous pénaliser à l'avoir laissé trop longtemps de côté, puisque vous allez perdre un petit peu le fil de ce qui s'est passé, devoir revenir sur des éléments précédents. Comme Papers, Please, c'est un jeu qui se penche un petit peu sur le poids d'une vie, enfin ce que c'est qu'une vie humaine, le fait de perdre la vie, etc. C'est un jeu qui reste très au niveau de l'humain, je trouve, et qui va vous amener à vous interroger aussi sur le fait de tuer quelqu'un, de comment on réagit dans une situation de crise, parce que vous allez découvrir qu'il s'est passé des choses un petit peu étonnantes, presque des fois surnaturelles sur l'Obradine. Et bah voilà, il y a plein de surprises. Volontairement, je ne vous décris pas ce qui s'est passé, parce que ça revient, mine de rien, à spoiler un petit peu l'aventure. Tout va être basé sur le fait de découvrir ce qui s'est passé au fur et à mesure. Mais c'est une enquête que je n'ai pas terminé, mais que je considère déjà comme véritablement passionnante.
Très bien, et on peut parler vite fait de la réalisation, puisque là, on n'est plus du tout dans le pixel art 2D un peu grossier de Papers, Please. On est dans un rendu qui rappelle les vieux jeux du début des années 80 sur Apple II, entre autres, ou des ordinateurs de la marque Bull, par exemple. C'est assez bizarre, un jeu monochrome qui pourtant est très clair, finalement.
Tout à fait. Et qui permet de mettre justement un peu plus en lumière les éléments avec lesquels vous allez devoir interagir, sachant que là vous voyez sur les images de Poufy qu'on a quelque chose de noir et blanc. Vous avez plein de filtres de micro-ordinateurs de l'époque, d'Amstrad, de plein de choses qui vont modifier un petit peu les couleurs, des fois certaines textures, et ça change rien dans le jeu. C'est vraiment purement visuel, c'est pour vous, c'est pour le kiff. Quel micro-ordinateur vous aviez à l'époque, vous pouvez retrouver.
Mais je savais pas qu'il y avait cette option, disons.
Si, il y a pas mal de filtres, mais vraiment ça ne change globalement que les couleurs principales qui vont être affichées à l'écran. Mais pour les gens qui sont un petit peu nostalgiques et qui ont eu un micro-ordinateur dans les années 80, ça vous permet de vous replonger un petit peu dans l'interface graphique de l'époque, quoi.
D'accord. Bon, donc pour l'instant tu le conseilles fortement.
Moi je ne peux que vous le conseiller.
En attendant d'écrire le test,
si vous aimez réfléchir, vous prendre un petit peu la tête, si vous aimez bien reconstituer vous-même les histoires, c'est un jeu qui est véritablement passionnant. Si vous aimez les jeux où on vous file plein d'indices pour pouvoir avancer, laissez tomber, vous allez vite sécher, parce qu'à un moment donné il faut véritablement prendre son temps, analyser, mais c'est une enquête vraiment vraiment très intéressante.
Bon, encore un jeu qui risque de figurer dans un palmarès en fin d'année, dans la catégorie indé notamment, et dans la catégorie enquête aventure,
et qui n'est, je le précise aussi, pour l'instant disponible que sur PC. Steam, voilà, à l'heure où on parle.
Très bien, donc c'est Return of the Obradine, qui est contrairement à Le Manquant, très facile à trouver, lui.
Oui, ce qui n'a pas été traduit mot à mot.
Le Absolument. On va passer au troisième thème de ce podcast avec toi, Camille. Exact. C'est une enquête, encore une fois, une enquête.
Et oui,
jeu d'enquête. Dans la folie cette fois.
Exactement, puisque comme l'a dit très justement Plume en début de podcast, c'est inspiré de deux choses. Déjà, c'est tiré du jeu de rôle. Papier,
papier qui sort, crayon,
et papier crayon, exactement, qui est sorti quelle année?
Oh là là, mais 80 et quelques.
Voilà, exactement,
monsieur.
Et qui lui-même s'inspire évidemment de l'œuvre de Lovecraft, L'Appel de Toulouse. On retrouve un peu cette ambiance-là. Donc Lovecraft oblige, on navigue aux frontières de la folie. On ne sait jamais vraiment si ce qu'on subit, ce qu'on vit, ce qu'on voit est véritable, ou alors une vue de l'esprit, un pétage du pont de notre personnage. Donc on est au 19e siècle. On est à Boston, très exactement. On n'est pas au 19e, puisque je raconte n'importe quoi.
Début
20e, à Boston. On commence à Boston et ensuite on va très vite se retrouver sur une île au large de Boston, dans lequel il s'est passé des choses un peu étranges, puisqu'en fait notre personnage est Edward Pierce et détective privé, et il va devoir, comme ça, il est appelé par un membre d'une famille qui a disparu, qui a été tué, enquêter juste sur cette disparition, puisque ça s'est passé dans des circonstances assez étranges. C'est un meurtre, et en même temps c'est censé être un suicide, mais en même temps s'il y a des goûts de meurtre,
ça ressemble à un meurtre.
On sait pas vraiment ce qui s'est passé, d'autant que le village, il est un peu une sorte de chape de plomb qui est dessus. Il y a plein de disparitions, des gens qui se comportent de manière très bizarre. On a des animaux morts, etc. C'est des animaux marins morts notamment. Donc on sait pas vraiment ce qui se passe, et donc on va être amené à enquêter. C'est un jeu qui est à la fois un RPG et en même temps qui n'est pas vraiment un RPG, dans le sens où ça reprend évidemment tout ce qui fait le charme un jeu de rôle papier, donc le jeu de rôle des années 80, puisqu'on va avoir plein de points,
de caractéristiques
qu'on va devoir choisir. On a par exemple de la force qu'on va devoir mettre, et tout ça va avoir un impact sur ce qu'on va pouvoir faire en jeu. Par exemple, un exemple tout bête, on a une porte qui est bloquée. on a plusieurs possibilités. Soit on va parler à un personnage pour essayer de deviner s'il n'y a pas un autre chemin laquelle on pourrait passer.
Avec des points d'investigation.
Des points d'investigation. Soit on va chercher par nous-mêmes dans le décor pour voir si on ne trouverait pas une clé. Ou alors, on va essayer de forcer la porte. Alors ça marche pas à chaque fois, hein, mais on va essayer de forcer la porte, et si on a un point de force suffisant, si notre personnage a un point de force suffisant, on va pouvoir passer outre. Mm. Et c'est plein de petites choses comme ça. Par exemple, souvent il y a des puzzles qui éparpillent le jeu. Pour autant, il n'y a pas autant de puzzles que j'aurais pu espérer. Je pensais qu'il y aurait peut-être plus de choses. Plus de réflexion, en fait. Finalement, c'est de la recherche, mais il n'y a pas des réflexions genre un peu intenses à la The Witness. C'est pas, il y a pas des vraies énigmes hyper importantes qui vont nous rester.
Casse-tête.
Il y a pas des vraies casse-têtes. Par exemple, il va y avoir un rouage. C'est difficile de parler du jeu sans spoiler vraiment, mais par exemple, à un moment, on est dans une pièce, on a une map monde, on comprend plus ou moins que la map monde, si on la tourne d'un certain angle, ça va ouvrir une porte. Et du coup, pour trouver cet angle, on va voir sur une carte, mais bon, ça s'arrête là, il va pas y avoir des milliers de recherches à faire pour pouvoir trouver cette énigme. D'autant plus que cette énigme, on peut la forcer avec un système de rouage, et on va se rendre compte que c'est avec la force musculaire qu'on va arriver à ça. Mais il y a plein de choses comme ça aussi dans les avec les personnages, pour ceux qui sont premium, notamment notre cher ami qui est avec la hache, qui est le, comment on appelle ça, pas le garde forestier,
il a pas l'air très sympathique, non, une espèce de concierge,
c'est le concierge, ouais,
un peu dégueulasse,
c'est un autre nom qu'un concierge dans un château, c'est pas un concierge, c'est
un majordome
ouais, qui
comme Nestor.
C'est l'homme à tout faire, en fait il est jardinier aussi de ce château. Et non, il n'a pas l'air commode, comme tu le soulignes très bien. Et comme ça aussi, c'est pareil, on a des caractéristiques qu'on va devoir choisir et qui vont nous permettre d'avoir des choix de réponses différentes. Puisque le jeu de RPG en cela, c'est que on a des choix de dialogue, et les dialogues vont avoir un impact sur le résultat et sur potentiellement la fin de l'histoire.
Et le simple fait de choisir, juste on a vu sur la vidéo qu'il y avait des choix qui étaient bloqués en fonction de tes caractéristiques de
départ.
Exactement.
Par exemple, si je suis, alors j'ai oublié le mot parce que j'ai joué le jeu en anglais. Pour la même raison que pour Red Dead, dans le sens où Red Dead c'est obligatoire là, mais là c'est vraiment pour l'immersion, j'aime bien jouer en anglais. Donc je me souviens plus du terme exact, mais en gros c'est notre, j'ai un trou.
Ouais, dis-le en anglais aussi.
Mais je l'ai plus en anglais non plus.
Ah bah okay, cool.
C'est une catastrophe comme ça.
Ça a un rapport avec quoi?
Enfin la chat.
C'est l'éloquence.
L'éloquence, voilà. Ouais. J'ai enfin le mot.
T'as des points d'éloquence.
Donc t'as des points d'éloquence. Ouais. Et si on en a un nombre suffisant, on va pouvoir faire parler, délier les langues et ainsi trouver des solutions. Au contraire, si on est plutôt quelqu'un de bourru, on peut braquer même certains personnages. Et du coup, il y a certains choix de réponses qui vont se bloquer. Il y a plein de choses aussi. Alors là, pareil, j'ai pas rentré dans le spoil, mais en fait, au début du jeu, on a le choix de se faire accompagner par un officier de police ou au contraire y aller tout seul. Et on verra que ce choix va avoir une importance assez notable, puisque qu'on fasse l'un ou l'autre, ça va avoir une différence vraiment sur la quête. Et d'ailleurs, c'est ça qui est très bien foutu, c'est que toute la première partie du jeu, on a vraiment cette impression, et d'ailleurs c'est plus qu'une impression puisque c'est un fait, que chacun de nos choix va avoir une influence. Malheureusement, au bout de, alors le jeu dure une dizaine d'heures, au bout de, on va dire, la moitié du jeu, en fait on se rend compte que c'était effectivement le cas à la première partie du jeu, et qu'à la fin ça allait un peu moins, c'est-à-dire qu'on a
cet effet d'entonnoir où tu te dis que finalement ils voulaient t'amener à ce point-là.
Voilà, plus on avance, plus on se dit ah ouais, mais en fait c'était cousu de fil blanc, et finalement
c'était l'un des points sur lequel ils avaient insisté lors de la présentation de l'E3 2018, c'est que ça faisait partie de ces jeux avec des choix qui allaient avoir des véritables conséquences. Moi, sur la courte partie où j'avais pu le voir, effectivement tu voyais les embranchements et tu voyais que c'était quand même assez différent,
mais toi t'as l'impression
de toute façon, quoi que tu fasses, on t'amène grosso modo vers un point final qui va être
le même. Ça reste très dirigiste.
Après, dirigiste ou pas, est-ce que l'aventure fait son boulot? Est-ce que tu te retrouves vraiment dans une enquête qui est passionnante, avec des personnages qui sont bien écrits? Est-ce qu'il y a de bonnes répliques? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que Call of Toulouse finalement est vraiment respectueux de Lovecraft?
Déjà, oui, ce qu'il faut souligner, c'est ça, c'est le côté immersif par rapport à l'œuvre de Lovecraft, où c'est très respectueux dans l'atmosphère. Déjà, on a une direction artistique qui est vraiment bien faite. On a des beaux décors, on a vraiment une ambiance, on sent vraiment que notre personnage, plus on avance dans l'histoire, plus il devient fou.
Et puis c'est glauque et angoissant.
Et c'est très glauque et angoissant dans la ville. sur l'île où on se retrouve. C'est très sombre, il y a beaucoup de brouillard. Les personnages sont pas tous très avenants, même d'ailleurs ils font souvent ils font la gueule, ils sont malheureux. C'est pas un jeu que je conseille d'ailleurs si on est en dépression, parce que vous allez vous suicider à la fin de l'histoire.
Je crois que c'était le but des... je crois que c'était le but de l'œuvre de Lovecraft, hein, de vouloir pousser les gens à se suicider à la fin.
Non mais l'œuvre de Lovecraft, de toute façon, c'est une casse-tête mentale, et c'est destructeur pour l'esprit humain.
À chaque fois, les histoires qui sont toujours racontées à la première personne sont des cheminements de personnes vers une folie absolue.
Parce qu'elles sont
au courant de choses.
Exactement.
Elles ont découvert des réalités qui étaient totalement fermées à l'être humain, et du coup, elles en deviennent toutes complètement cinglées. Et tout à la limite de la folie et du suicide, quoi.
Oui, c'est ça, parce que c'est un peu le cas là aussi. En suivant l'histoire, en fait, on perd un peu sa foi en l'humanité, dans le sens où tout le monde a quelque chose.
Encore
quelque
faut-il chose. En avoir un petit peu.
Voilà, c'est ça. Tout le monde a quelque chose à se reprocher. Finalement, c'est très difficile de trouver du bien. Tout est très sombre. Toutes les raisons des personnages sont très obscures. Et on se rend compte que, il y a aucune lueur d'espoir finalement, puisque tout est lié à la folie, etc. Et que finalement, l'homme est voué à être perdu. En fait, c'est un peu le message du jeu.
Bah, c'est le message de Cthulhu aussi, je crois.
C'est le message de Cthulhu, et c'est le message de toute façon Lovecraft dans son œuvre dans sa globalité.
Et pourtant, on t'a entendu très souvent rigoler en y jouant.
Bah, c'est parce qu'il y a des moments, en fait, c'est tellement dans l'absurde et ça va tellement loin dans la folie qu'en fait, ça en devient drôle. Parce que rien que le personnage du majordome, du concierge du château, il est très bourru, il va te sortir des répliques qui sont pas drôles en soi, mais qui le sont dans le contexte, en fait. Ouais.
Donc il y a une certaine forme d'humour un peu décalé aussi.
Voilà, un humour sans forcément le vouloir, en fait. Tu dis que ça part tellement loin, que le personnage il a l'air tellement cinglé, il a l'air tellement paranoïaque, que tu te dis mais ça en devient drôle, en fait, parce que le mec il est prêt à te donner un coup de hache parce qu'il y a un mec qu'il connaît pas qui rentre dans le jardin de sa maison abandonnée. Enfin, ça part d'un délire qui sont comme ça, et du coup effectivement à certains moments ça peut être drôle. Mais là, pour revenir, donc la direction artistique pour moi c'est vraiment à sans faute, elle est vraiment très bien trouvée. Ça fourmille de détails. D'ailleurs, on est amené à chercher, on a une jauge on a plusieurs jauges. On a la jauge d'occultisme qui permet de tous les objets un peu mystérieux dans le décor permettent d'en savoir plus. On a aussi une jauge d'indices de recherche qui va permettre de repérer des objets dans le noir, de repérer des objets qui ont eu une utilité auparavant dans le personnage. En fait, notre personnage peut remonter dans les souvenirs et il peut revivre des scènes. C'est un peu pour signifier son côté enquêteur. En fait, il peut, comment dire, il a un peu une vision fantôme, il peut voir des scènes qui sont déroulées dans des pièces, etc. Et du coup, ça fourmille de détails. C'est vraiment, on a vraiment l'impression, enfin j'allais dire c'est vivant, mais en même temps non, puisque c'est la grosse partie du jeu se passe dans un endroit abandonné. Mais c'est vivant dans le sens où ça respire la vie. C'est tangible. On rentre dans un salon, on a des vieux livres ouverts qui ont un vrai sens. D'ailleurs, il y a plein d'échos à plein d'œuvres. On a des œuvres de Victor Hugo, des œuvres de... On a, à un moment, notre personnage ouvre 20 milieux sous les mers, qui fait écho d'ailleurs à Cthulhu, puisque Cthulhu en parle aussi dedans. Enfin, il y a des échos à ça. Il y a plein d'œuvres littéraires du 19e et du début du 20e qui sont dedans. On sent que ça a une certaine cohérence. Pareil, dans les tableaux, tous les tableaux ont une signification. Mm. C'est hyper intéressant parce que les significations, elles n'ont pas forcément un impact en fait sur l'histoire. On ne va pas se dire, tiens, ce tableau, je vais l'étudier parce que ça va me donner une réponse à une quête. Non, on va voir ce tableau parce qu'il nous intrigue. On a un tableau qui est hyper glauque dans le coin d'une pièce au-dessus d'une cheminée. On va voir ce que c'est parce que ça nous intrigue, ça nous dérange.
Ça t'interpelle, ouais.
Ça nous interpelle. On va voir et on se dit, ah oui, tiens, ça fait écho à ce que j'ai vu un peu plus loin. Tout ça, c'est très intelligent. Et il y a vraiment une direction artistique qui plus que d'aider au gameplay, qui nous fait prendre conscience, enfin, qui est vraiment intelligent et qui nous renvoie à l'œuvre de Lovecraft, etc. Donc c'est vraiment très intelligent et c'est très, très concret.
Mais techniquement, par contre.
Voilà. Mais techniquement, c'est un peu le défaut. Notamment au niveau des animations. D'ailleurs, le plus gros défaut, c'est pas forcément technique, dans le sens où les textures, elles sont très honorables, hein. Ça reste joli à certains moments d'ailleurs, mais notamment avec ce filtre un peu verdâtre qui renvoie à Lovecraft, mais les animations, c'est une horreur. Les animations, elles ont 10 ans de retard. Puis on a ce côté un peu. Alors, c'est vrai que les jeux édités par Focus en général, ils souffrent un peu tous de ce défaut-là.
Ça a l'air un peu raide.
Ouais, dans Vampire, c'est déjà le cas. C'était déjà un peu le cas, mais beaucoup moins. Donc là, pour info, c'est Cyanide qui a développé et c'est Focus qui est derrière. on retrouve quand même ce côté un peu jeu édité par Focus où on sent qu'ils n'ont pas mis tout le budget là-dedans et ça se ressent à certains moments, même tout le temps. C'est-à-dire que les personnages en fait ont des réactions de PNJ d'il y a 10 ans, quoi. C'est-à-dire quand il va parler, on a pas un moment on rencontre une femme qui est un peu la tôlière de l'île, qui est un peu comment dire la criminelle qui est crainte par tout le monde. Quand elle nous parle, c'est très très caricatural. On a l'impression que c'est le guignol, quoi. Tu vois, c'est genre elle fait des grands gestes quand elle s'exprime, quand elle te menace, le personnage il va faire ça, tu vois.
Oui, tu vois les scripts qui se déclenchent.
C'est
en fait,
ça, ouais. C'est un peu comme dans les Sims. Tu sais, les Sims. Enfin, je sais pas si
ouais, l'occasion. Vois, ouais. C'est une attitude physique qui est exagérée, exprès pour.
Voilà, quand le Sims, il va être intrigué par un truc, il va être surpris, il va faire un grand geste comme ça.
Oui, mais c'était des petits personnages. Là, tu voilà. Les as devant toi en chair.
Là, tu les
as devant
toi et du coup, c'est un côté un peu ridicule qui peut un peu casser l'immersion. Après, le jeu a une direction artistique qui fait que finalement, on y croit. Même les personnages, en fait, ils sont tous glauques, en fait.
Ils ont des gueules. Quoi.
Ils ont des trognes. Ils ont tous la peau grisâtre. Ils sont très sombres. Ils ont des cernes. On sent qu'ils sont dans une ambiance. Ils sont fatigués eux-mêmes.
On en a vu aucun qui a l'air en bonne santé.
Ah oui, non,
tout à l'heure,
ils ont tous l'air en phase terminale, en fait. C'est un peu ça.
Bah, si ça s'appelle l'appel de Cthulhu, c'est que Cthulhu est dans le coin. Si Cthulhu est dans le coin, c'est forcément, ça. T'es pas très en forme.
C'est ça. Et du coup, voilà, ça peut casser l'immersion. Je pense que quelqu'un qui est habitué. Qui va jouer à un Red Dead ou qui est habitué à jouer à des triple A, etc. En ce moment, il y en a beaucoup qui sortent, même Assassin's Creed Odyssey, qui a très bien fait son character design, qui est vraiment excellent. Des belles textures, même au niveau des animations, ça sonne vrai, quoi. Quand on passe de ça à ça, on se dit effectivement il y a un gros gap de différence et ça peut un peu casser le mythe.
Ouais, donc il faudra passer par dessus.
Il faut tiens, quand je parlais des tableaux, on en voit un là notamment. Faut passer par dessus pour apprécier. Sinon au-delà de ça, c'est pareil techniquement, il y a des choses c'est un peu dirigiste, dû d'ailleurs au fait vu que techniquement c'est un peu raide, un peu rigiste, ça fait un blocage quelque part au niveau des gameplay. On sent qu'ils sont peut-être pas forcément allés au bout de leurs idées parce que ça réclamait une technique qui était peut-être qui aurait demandé à être plus poussée. C'est pas un mauvais jeu. Et en même temps, c'est pas un excellent jeu.
Tu l'as pas encore fini, mais tu peux déjà nous dire que c'est pas un mauvais jeu.
Je l'ai quasiment fini. Je dois être à 98% du jeu.
D'accord.
Je le conseille parce que c'est un bon jeu d'enquête. Après, faut pas s'attendre à une énorme claque. Je m'attendais à mieux que ça. Parce que c'est vrai que j'ai été beaucoup. Quand toutes les divers previews que j'avais faites, que ce soit la Gamescom l'année dernière ou il y a encore 2 ans, ou l'événement Focus qu'ils organisent en février chaque année à Paris, je m'attendais à mieux que ça en fait. Donc un poil déçu, mais ça reste une œuvre intéressante, d'autant si on adore la littérature fantastique où on est vraiment c'est vraiment une bonne pioche à ce niveau-là, quoi. Et puis les personnages sont très bien écrits. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, l'interprétation des personnages est très bonne. Ça sonne réel, c'est pas creux, c'est concret, ils ont une véritable intensité. Mais le personnage secondaire, comme notre cher ami policier qui au début est un peu bourru, etc. Et puis on se rend compte que finalement c'est un brave type. Et ben voilà, il y a plein de choses comme ça.
Comme Trace.
Exactement. C'est un peu le Trace.
Ouais, c'est un peu le Trace du jeu vidéo.
Et du coup, on a ces personnages qui ont une profondeur et qui sont, malgré leur animation un peu pourrie, qui ont une vraie profondeur et qui sont intéressants à suivre.
Toujours comme Trace, ouais.
Voilà. Et notre personnage principal, Edward Pierce aussi, est un personnage intéressant. Donc voilà, c'est un jeu qui a des très bonnes idées, qui est des très bons points. Après,
bon, tu nous diras tout ça quand le test paraîtra et que
très bientôt,
un avis définitif sur Call of Cthulhu, donc qui est sorti aujourd'hui au moment où on enregistre ce mardi 30 octobre sur PS4, Xbox One et PC. Camille,
d'ailleurs.
En dernier mot, faut quand même saluer Cyanide pour le travail qu'ils ont fait, parce que c'est vrai que c'est quand même il y a un beau travail de recherche sur l'œuvre de Lovecraft qui est vraiment bien, et c'est voilà, ça respire la littérature à plein de niveaux. On sent qu'il y a plein d'échos, plein d'easter eggs à ça, et c'est hyper intelligent, quoi. Voilà.
D'accord. Est-ce que y a un truc avec Houdini à l'intérieur ou pas?
Non,
d'accord. Non, parce qu'il y avait une des histoires de
Houdini l'ourson.
En fait, je relis Les Montagnes d'Hallucinés en ce moment, mais le recueil où il y a l'appel de Cthulhu, et je me souvenais pas, mais il avait fait une nouvelle dans laquelle il était Houdini, en fait. Houdini lui avait dit ouais, si tu veux écrire un truc où je suis le héros, il y a pas de problème, et il avait écrit une nouvelle nouvelle dans laquelle il est prisonnier des pyramides. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est Houdini qui devait, qui s'échappait d'un truc au niveau des pyramides.
Après, ça a peut-être échappé. Pas... Cette historique a peut-être échappé parce que je suis pas non plus.
Parce que j'avais cru comprendre, je sais plus avec qui j'en avais discuté, mais j'ai cru comprendre que en fait toute l'équipe de qui bosse sur le jeu s'était littéralement enfermée chez soi pour. Pour décortiquer.
Ah mais ça m'étonne pas, ça se ressent. Ça se ressent et vraiment ils ont fait un beau travail à ce niveau-là quoi.
Bon, eh ben écoute, on attendra ton test, Camille, pour être sûr de la note que tu lui donnes et de l'appréciation que tu lui mets. Comme pour Obradin, surveillez Gameblog avec attention. On arrive dans la dernière ligne droite. Il reste plus que deux choses à faire. La première, c'est l'anniversaire.
Eh oui.
Mon cher Thomas, on va commencer avec le plus évident, celui qui nous parle le plus, celui qui a le plus de place sur la table, c'est la Mega Drive.
Et qui pourra en avoir même encore plus. Hein. J'aurais pu ramener plein d'autres jeux, mais là, vous voyez, on a fait une petite sélection. La Mega Drive, effectivement, qui fête ses 30 ans.
Oh la vache.
Un bien bel âge, ma foi. Ah. On parle évidemment de l'anniversaire de la sortie japonaise qui avait lieu le 29 octobre 1988, avec très 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 peu de jeux. À l'époque au Japon, pendant plusieurs mois, il n'y a que 4 jeux qui sont disponibles sur la Mega Drive, qui sort évidemment assez tôt pour essayer de prendre de vitesse la Super Famicom
qui tourne juste derrière
arriver,
nous là.
Dont Golden Axe, effectivement, un des grands beat'em all de la console, sachant qu'il y a eu deux suites hein, derrière, comme les Streets of Rage. Je vous ai ramené le premier qui est là, qui est dédicacé d'ailleurs par Koshiro. L'interview arrive très vite sur Gameblog.
Mais dis donc, tu nous as caché ça, que t'avais de la thune là comme ça sur la table. Attends, je vais juste le prendre vite fait.
Oui, il est pour un ami, donc s'il te plaît tu n'y touches pas, je vais l'offrir. Bon ben voilà, puis évidemment immense console de Sega. On voit là, Poufy nous montre un trailer des premiers jeux, Strider, Streets of Rage, beaucoup de shoot aussi au début. Bon, des jeux de course que personnellement je connais moins, mais voilà, le premier design que vous pouvez voir à l'écran avec les pubs comparatives d'époque, puisque on vous le rappelle, Sega does what Nintendo don't, et en l'occurrence la guerre était frontale justement à partir du moment où la Super Nintendo était sortie. On a eu la réaction de Sega, à savoir Sonic the Hedgehog que vous voyez là à l'écran, qui était proposé avec la console pour $149 aux États-Unis contre $199 pour la Super NES et Mario, avec cet état d'esprit très Sega de l'époque, donc le côté un petit peu punk, un petit peu rentre dedans.
Oui, d'ailleurs peut-être qu'on consacrera un podcast un jour entier à la Mega Drive, hein, parce qu'elle le mérite, mais c'est vrai que
ce serait pas mal, ouais.
L'image de Sega à l'époque, c'est ça.
C'est le gros
punk et cette chanson qui faisait nanana, dont j'ai oublié le titre évidemment, et qui se fait défoncer à tous les jeux auxquels il joue, que ce soit du Sonic, que ce soit des jeux de course ou autre, et je sais plus qui est le, je crois que c'est Patrick Borg qui faisait la voix de Maître Sega en français, en lui disant alors petit, tu es venu te frotter à tel jeu, et c'était à chaque fois c'était cette pub là, c'était ça, c'était vraiment une preuve de l'état d'esprit de Sega qui essayait de mettre quelque chose d'un peu plus déconnant, un peu plus mature.
Qui ringardisait Nintendo et qui essayait de se donner un côté
et d'ailleurs,
punk, badass.
Ils les ont ringardisés d'une certaine façon parce qu'eux au moins avaient accepté que Mortal Kombat ne soit pas censuré avec du sang vert sur Mega Drive.
Il fallait taper un code issu d'un album de Genesis, puisque c'était le nom de la console aux États-Unis, mais effectivement tu pouvais jouer à Mortal Kombat premier du nom avec le sens qui n'était pas possible sur Super Nintendo.
Voilà, et Mortal Kombat 2 était sorti directement avec du sang, si je me rappelle.
Oui, mais alors je crois que sur Super NES aussi, du coup.
Ah oui ?
Oui.
Ah, je n'ai pas le souvenir.
Il s'était écoulé quelques années entre les deux, du coup, les mentalités avaient un petit peu changé. Romain vous parlait de la semaine dernière, il y a peut-être 2 semaines de Night Trap, qui avait été à l'origine des discussions qui ont donné lieu à la création de l'USRB. Mortal Kombat en fait évidemment partie. Il y a plein de choses à dire sur la Mega Drive, et effectivement, Julo rentre, il faudrait qu'on fasse un podcast hors série sur les 30 ans de cette console, avec beaucoup de jeux qu'on connaît pas forcément tous, il y a beaucoup de jeux pas forcément bien connus sur Mega Drive, des RPG qui ont changé de nom sur tous les territoires, je pense à
comme
Soleil,
sur Master System aussi d'ailleurs,
la légende de Thor, en plus des Landstalkers que tout le monde connaît, une grande époque de Konami aussi. Là, je vous ai ramené Sparkster, Rocket Knight Adventure, qui est le premier épisode, Sparkster étant le second.
Oh purée, il y a Aladdin.
Ouais, il y a le Aladdin de non pas de Capcom, mais de David Perry,
qui n'est pas encore Shiny Entertainment à l'époque, mais effectivement David Perry, qui est un jeu que j'appréciais énormément.
Et tous
les Disney, Castle, World of Illusion,
Le Roi Lion,
Quackshot. Ça
Quackshot, ouais.
Quackshot qui était là au début de la console, d'ailleurs.
C'était que de la collection perso, ça. Donc voilà, énormément de bons moments. Même si moi je ne l'avais pas à l'époque. Hein,
t'as mis en 93 avec. Ah oui, tu l'as acheté plus tard.
Oui, je l'ai acheté à la fac tout ça. Donc
c'est 10 ans.
Ouais, c'est ça. Voilà. C'est une collection a posteriori. Et alors des extensions très malheureuses, hein, comme la plupart du temps en ce qui concerne les extensions, ouais. Notamment le Mega CD.
Oh, c'est génial.
Mega CD qui nous a quand même donné des belles choses. Hein. On peut parler
oui, mais
de
pas beaucoup. Hein.
Oui, mais. Pour nous, à l'époque, c'était fou quoi, d'avoir Sonic sur Mega CD, Road Avengers, mine de rien, c'était quand même chouette pour l'époque. Pouvoir jouer à Virtua Racing sur 32X, non, on va pas parler de 32X, c'était de la merde.
Ah bah si,
merde.
On va en parler juste
non,
après.
Non, mais c'était de la merde, le 32X.
Oui, sauf qu'il y a Space Harrier dessus.
Ok, alors il y avait Space Harrier.
Voilà, moi j'ai acheté le 32X juste pour Space Harrier, donc il y avait un bon Star Wars aussi, une bonne version de Doom qui était un peu plus sympa au niveau des
musiques. Mais ça a complètement bidé, en revanche, le
32X. Oui, ah bah, les extensions, c'est-à-dire qu'au final, si vous aviez le Mega CD plus le 32X, vous aviez un nombre de câbles de connectique affolant, il y en avait absolument partout, et à plus forte raison pour les joueurs américains, parce qu'en plus il y avait vraiment des gros secteurs à l'époque sur les consoles Sega. Bon bah voilà, elle a été rapidement éclipsée, malheureusement.
Peut-être qu'on le replacera dans un podcast plus tard, mais quand même, la console sur laquelle des jeux sur les cartouches avaient des ports manettes. C'est-à-dire, je crois que c'était Pete Sampras et Micro Machine, tous deux des jeux de Codemaster, si je me rappelle, avaient des
ports manettes
dessus supplémentaires pour pouvoir jouer en multijoueur. Ils vendaient pas un multitap sur Mega Drive, mais ils avaient des autres astuces comme ça.
Parlons de Sonic & Knuckles aussi, qui permettait de brancher, enfin de plugger par-dessus Sonic 1, Sonic 2,
exactement.
Et de revisiter des jeux que vous connaissiez avec Knuckles et son gameplay un petit peu différent.
Ah oui, c'est vrai, ça aussi.
S'accrocher au mur. La pub à l'époque était d'ailleurs super chouette, parce qu'en France, en tout cas, je sais pas si tu t'en souviens, t'avais un gamin ligoté, et ça disait vous allez faire payer très cher à votre petit frère le fait d'avoir revendu Sonic 1 et Sonic 2, puisqu'il fallait les garder pour profiter à fond de Sonic & Knuckles. Enfin voilà, plein de choses un petit peu inventives.
Et ça fait 30 ans donc.
Et ça fait 30 ans, et malheureusement la console a été rapidement éclipsée par le succès incroyable de la Super Nintendo en Occident, notamment. Et Sega aura dû dégainer très vite la Saturn derrière, qui aura, elle, connu un funeste destin.
Oui, mais j'ai toujours, et j'en suis content. Deuxième anniversaire, il est pour moi, évidemment. C'est encore une fois un 29 septembre, mais c'était en 93. Cette fois, c'est Akumajo Dracula X Chino Rondo. Et là, vous dites, qu'est-ce qui lui prend ? Pourquoi il parle de cette langue étrange ? Parce qu'en fait, c'est Castlevania Rondo of Blood, tout simplement, qui était sorti en 93 sur PC Engine. Là, vous voyez des images de Castlevania Requiem. J'en parle essentiellement parce que Castlevania Requiem, qui est la compilation de Symphony of the Night et de Rondo of Blood, est arrivé. Castlevania Requiem, si vous avez lu mon test rapide, ce n'est qu'un portage de The Dracula X Chronicles, qui est sorti sur PSP il y a
que nous avons
un paquet
juste
d'années,
là,
voilà, qui est juste là à l'écran. Mais Rondo of Blood est peut-être l'aboutissement de la comment dire,
il est sorti en 2007,
de la proposition arcade de Castlevania. C'est un des derniers, hein, d'ailleurs, à le proposer clairement avant Symphony of the Night en 97. Il y aura eu aussi Bloodlines / Generations sur Mega Drive, par exemple. Mais Rondo of Blood, c'est un qui est donc la préquel de Symphony of the Night, puisqu'on y incarne Richter Belmont, est un jeu qui a une action vraiment très très bien calibrée, qui offre déjà à ce moment-là, enfin, comme dans Castlevania 3, des embranchements aussi, des passages secrets, avec dès le début, quand on se fait courser par un énorme taureau, y a peut-être un passage qui se crée quelque part où vous pensez que vous allez mourir, par exemple, et qui du coup va vous ouvrir un autre chemin. Il y avait énormément d'idées dans le jeu, ne serait-ce que par exemple le double saut. Si on fait un double saut, ça fait en fait une galipette arrière, un espèce de flip arrière qui était vachement utile face à certains boss. Il y a énormément de très bonnes choses. C'était un jeu qui était très beau aussi pour l'époque. Alors j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer directement sur PC Engine. AHL me l'avait promis, ça n'est jamais arrivé, mais j'aurais bien voulu y jouer un jour sur une vraie PC Engine. C'est un jeu qui était sur PC Engine CD, qui était magnifique, qui avait une intro en dessin animé somptueuse, quelques musiques merveilleuses aussi, hein, avec encore une fois une version de Bloody Tears bien réarrangée, qui faisait tout simplement honneur aux compositions habituellement de la série, et qui permettait d'avoir vraiment, en dehors du fait qu'il n'y ait pas le fouet qui va dans tous les sens comme dans Super Castlevania 4, c'est peut-être le plus réussi côté action Parce que fourni, parce que difficile, parce
un excellent second personnage aussi.
Oui,
Maria
Renard, absolument, qui se jouait avec des pouvoirs magiques.
Plus comme un shoot, un petit peu.
Aussi, oui, c'est vrai, on peut le voir comme ça. Absolument, avec les pouvoirs de la tortue et je ne sais plus quels étaient les autres. Mais bref, c'est encore aujourd'hui un super jeu que vous pouvez retrouver donc dans Castlevania Requiem, dans sa version uniquement 2D. Ils n'ont pas pris la version 2,5D de Dracula X Chronicles. Allez savoir pourquoi. Peut-être pour un besoin d'authenticité, alors que la version 2,5D était plutôt pas mal, je trouve. Mais n'hésitez pas à replonger dedans. C'était donc maintenant, il y a 25 ans, qu'il est sorti, le 29 septembre 1993.
Et il avait été porté sur Super Famicom aussi, Dracula XX.
Alors oui, c'est Vampire's Kiss, il est pas bon.
Oui, mais il est pas bon.
Il est pas bon, c'était une version amputée, il y avait la plupart des éléments de scénar qui avaient été sabrés, des bouts de niveau entiers qui avaient été sabrés. Non, c'est moi j'ai un très mauvais souvenir
à l'époque qui n'avait pas de PC Engine et on était un peu nombreux, c'était l'une des seules manières d'y jouer en rapport Super Famicom.
Bon, hein,
effectivement, non, il ne se hisse pas.
Il y a des gens qui aiment bien mais je
les comprends de Chino Rondo l'original.
Exactement. Dernier anniversaire sur lequel on va évidemment pas s'éterniser, c'est celui de Call of Duty, mon cher Thomas. Call of Duty, on est en 2003, le 29 octobre 2003, décidément il se passe des choses hein, le 29 octobre. Premier Call of Duty, Camille, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler, toi qui avais environ 2 ans à l'époque?
Ouais, Infinity War, alors attends.
Ah, c'est Infinity War, le studio. Oui. Donc premier épisode c'était la Deuxième Guerre mondiale à l'époque.
Bah oui, parce que Call of Duty a resté très longtemps sur la Seconde Guerre mondiale.
Pendant 3 épisodes. Hein.
Plus même, ils ont fait World at War après.
Bah le 4 c'était le...
Ouais, mais après ils sont revenus avec World at War.
Mais les 3 premiers c'était bien la Deuxième Guerre mondiale, pardon.
Excusez-nous, on est tous en train de mourir un peu
en train de crever. Bon, rapidement, c'était un jeu qui mettait en place déjà un système de multi-campagne. On avait un parachutiste américain et je crois son capitaine dans la première campagne, un anglais dans la deuxième et la troisième, on était carrément à Stalingrad. Quatre campagnes historiques. Donc oui, alors les deux premières avec les Américains, elles étaient...
Et après avec les Russes, ouais.
Ouais, voilà. Et le dernier dans la peau des Russes.
On avait, je me rappelle, le premier niveau, c'était Stalingrad, tout simplement. Ouais. Très largement inspiré du film, d'ailleurs, puisqu'on avait des scènes
de Jean-Jacques
qui étaient Hano, exactement, quasiment copiées-collées de celles du film. Non, il y en a eu deux. Avant, ensuite, Jean-Jacques Hano, il y en a un côté allemand, en fait,
ouais,
qui était 2 ans en 89, si mes souvenirs sont bons.
Jean-Jacques Hano, c'est ce début des années 2000, hein, je crois. Fin 90, ce début 2000.
Alors, je sais qu'il y a
avec Jude Law et Rachel Weisz.
Il y en a un juste avant, en fait, côté allemand, et celui de Jean-Jacques Hano était côté russe. Et donc le jeu dans toute la campagne russe inspirait en fait des deux films, et on avait vraiment des copier-coller en fait de scènes, tout comme ils ont fait avec Call of Duty World War II il y a 2 ans, ou l'année dernière d'ailleurs, où ils ont copier-coller des scènes de certains films cultes. Et là, c'est un peu pareil. On avait vraiment l'impression de jouer il y avait même des scènes qui faisaient penser au soldat Ryan, puisque évidemment c'était l'occasion de nous ressortir une énième fois le débarquement, et du coup c'était vraiment
surtout qu'il y avait Medal of Honor aussi qui existait à ce moment là
c'était la bourre en fait, ils se tiraient la bourre entre les deux.
Exactement.
On savait que chaque année on avait un Call of et un Medal of Honor, et on sait jamais lequel allait être le meilleur avant que Medal of Honor se casse la gueule et que ce soit Call of Duty
parce que Call of a démarré comme étant vraiment une licence excellente.
Exactement.
Très rapidement, d'abord sur PC, ensuite elle a été sur console, mais moi j'ai des souvenirs d'avoir testé Call of Duty 2 et 3 dans leurs adaptations PS3 360 si je ne m'abuse. C'était des super jeux en plus, avec des scènes, je me rappelle dans le désert en tank notamment. Il y avait des trucs qui sortaient vraiment du lot, et justement le changement de point de vue apportait beaucoup de choses. Voilà, Call of Duty qui existe toujours aujourd'hui.
Je pense que si la série Call of Duty a eu autant de succès, outre le fait qu'il y avait des bonnes équipes qui ont travaillé dessus, c'est justement cette confrontation avec Medal of Honor qui les a poussés à mieux faire d'année en année, en fait. Puisque c'était vraiment deux licences qui jouaient sur le même terrain, la Seconde Guerre mondiale, le FPS et l'action. Et du coup, je pense que ce fait de devoir faire mieux d'année en année, ça a permis au studio d'avoir des beaux acquis et de proposer des épisodes d'année en année qui était de mieux en mieux, quoi.
Voilà, donc le dernier en date de Call of Duty, c'est Black Ops 4, qui est sorti il y a 15 jours maintenant, et qui est un jeu essentiellement multijoueur qui n'est pas Seconde Guerre mondiale, donc voilà.
Mais le test à l'époque aussi, j'ai oublié de le dire, Battlefield 1942, qui lui jouait sur notre terrain puisqu'il était entièrement multijoueur.
Voilà. Oui, aussi. Oui.
Donc on avait, quand on voulait jouer à un FPS dans une guerre mondiale, soit on jouait en multi sur BF, soit on choisissait entre Medal of Honor et Call of Duty pour jouer une campagne solo.
Et ouais, c'était en 2003, c'était il y a longtemps hein, tout et ça. Oui.
L'année du bac.
Ouais. Ok. Bon, je crois qu'on va bientôt terminer le podcast, mais qu'il faut passer d'abord par le hors-jeu. Le hors-jeu de la semaine.
Et là, c'est nous qui tournons vers toi, mon cher Plume.
Bah ouais, on va tout de suite se tourner vers moi. Alors, ce n'est pas Castlevania. Non, je n'ai pas eu le temps de regarder la série. Hein, au cas où vous n'auriez pas remarqué, j'ai bossé ces derniers temps. Donc, on va se pencher sur une autre série que j'ai faite. Enfin, que je me suis fini un petit peu avant.
Tu l'as faite carrément
Ouais, ouais.
Il y a ton nom au générique.
J'ai tout créé moi-même. Non, que je me suis regardé rapidement. Qui s'appelle The Haunting of Hill House. Alors, mon accent
ça
est à chier.
Beaucoup, cette série.
Mais on va dire que c'est la maison des Hill qui a été hantée. Voilà, ce sera une bonne traduction, je pense. Parce que le hantement, je crois pas que ça existe.
Non, mais ils l'ont traduit en québécois. Enfin, les Québécois traduisent tout, mais.
Ah oui.
Ouais, et ils l'ont traduit d'une manière.
La malédiction de la maison des Hill.
Je crois que c'est ça, ouais.
Ouais, ouais. Parce que. Donc, de quoi ça parle? Bah, ça parle d'une famille, la famille Crane, qui se retrouve quelques années après de tragiques événements qui ont eu lieu dans une maison hantée. Il y a deux fils et trois filles dans cette famille dont on ne sait pas ce qu'est devenu la mère au début de la série, mais le père, lui, est toujours là. Visiblement, ils sont tous passés par des épreuves très difficiles et ça va jouer sur plusieurs temporalités pour essayer de vous amener à comprendre ce qu'est cette maison, ce qui leur est arrivé à chacun, savoir aussi s'ils n'ont pas des spécificités personnelles par rapport au surnaturel. Bref, il y a plein de choses comme ça qui se développent tout au long de la série, qui fait une dizaine d'épisodes et qui est absolument enchantresse, qui fait penser un peu à du Guillermo del Toro par moment et qui ne manque jamais, mais alors jamais, de vous faire flipper.
C'est la vraie horreur, c'est du vrai film d'horreur.
Non, c'est pas horreur, je dirais plus que c'est non, je peux pas dire que ce soit horrifique, ou alors si, mais pas dans un sens vraiment.
Non, mais ça fait peur, quoi. C'est que je veux dire.
Ouais, ça fait.
Il y a une ambiance très
tendue
et beaucoup de couleurs très sombres dans ce qu'on voit du trailer. Là.
Complètement, ouais. Et c'est très
très gothique.
C'est très très flippant, très gothique, absolument. Et il faut admirer surtout le travail du réalisateur Mike Flanagan qui a mis en place cette série avec dans la plupart de certains plans qui se passent dans la maison toujours des choses qui sont cachées à l'intérieur de l'image et qui si vous les voyez vous interpelle immédiatement. Ça y va évidemment à coup de jumpscare, à coup d'images un peu brutes, à coup de
et du jumpscare alors dans la série, d'accord.
Ouais, il y en a.
Donc ça reste quand même un film d'horreur classique.
Ouais, classique, je sais pas, mais en tout cas ça reste assez épouvante. Il y a aussi des plans où quelque chose a changé de place après le passage de la caméra à un endroit ou à un autre. Il y a toujours quelque chose, un petit détail à l'écran pour vous interpeller. C'est extrêmement bien écrit, même si la fin, moi je la trouve encore un peu comme Mama que j'avais vu il y a quelques années, je la trouve un peu facile. Mais le reste, c'est du très très bon. Les interprètes sont évidemment... excellent. On a Carla Gugino qui joue le rôle de la mère, qui est toujours excellente de quel que soit son rôle. Michel Ousmane qui va jouer le rôle du grand frère. Alors Michel Ousmane, mesdames, vous devez peut-être savoir qui c'est le beau barbu de Game of Thrones qu'on voyait aussi dans Orphan Black et qu'on a vu dans des pubs pour Chanel, je crois. Un acteur néerlandais qui du coup n'est plus rasé, du coup il fait moins BG. C'est un peu bizarre.
Il joue qui dans Game of Thrones?
Il joue l'assassin qui accompagne Daenerys qui se l'a fait.
Ils ont changé d'acteur deux fois.
C'était le deuxième. C'était pas le premier. Le deuxième, c'est celui qui est barbu, qui est beau, tout ça. Ouais. Voilà. Donc c'était lui. Et on retrouve aussi. Il y avait Elizabeth Reaser aussi que vous connaissez si vous avez regardé Twilight, notamment. Enfin bref. Un casting bien complet. Ils sont tous vraiment très très bons, que ce soit les petits jumeaux, la Benjamine et les deux aînés. Vraiment, et là je parle des acteurs adultes, hein, mais les enfants aussi. Les deux jumeaux notamment sont fabuleux, vraiment, ils sont tellement mignons tous les deux, c'est difficile de résister. Je vous conseille vraiment cette série, donc The Haunting of Hill House sur Netflix, ça s'avale vraiment d'une traite sans problème et c'est très agréable à regarder, surtout si vous avez envie de vous faire, si vous avez envie de vous faire un peu peur.
Poufy, pas trop les scènes d'injection comme ça.
Poufy donne son approval sur cette série.
Tamponné.
Voilà, et ça c'est très important d'avoir l'approval de Poufy.
C'est si rare que ça ?
Ouais. Poufy il est super exigeant.
D'accord.
Oh, t'as pas idée.
C'est un bon maître étalon du coup.
Oh là là, mais t'as pas idée. Oh, en fait, j'en sais rien du tout. Voilà.
Bon. En tout cas, il rigole bien derrière la caméra.
Oui, il rigole bien. Et nous aussi, on va bientôt rigoler parce qu'on va pouvoir aller se désaltérer un petit peu, se rafraîchir la gorge, notamment après avoir parlé pendant tout ce temps. Ainsi va l'actualité de la semaine. On est ravis d'avoir passé une fois de plus un podcast en votre compagnie. On espère que vous aussi, évidemment, comme à chaque fois. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ci-dessous si vous avez des réactions par rapport au win, au fail, au 10 ans, au hors-jeu, à l'anniversaire.
Réclamez un podcast Megadrive, réclamez-le.
Aux trois thèmes que nous avons développés. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous faire part de vos commentaires. Et puis, bah, je sais pas, je pense pas que ce sera moi la semaine prochaine. Hein. Il faudra peut-être que Julo retrouve un peu la place qui est la sienne. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau podcast de la rédaction traitant de l'actualité du jeu vidéo. Et puis bah merci Thomas, merci Camille, merci
Désolé
Sophie,
pour
merci
les éternuements et tout sautement divers et variés.
Oui. Ça sera un podcast normalement moins malade. Voilà,
non, espère.
Ça au moins on peut vous le garantir, il devrait être beaucoup moins malade. Entre les conjonctivites, les crèves et je ne sais autre truc, ça devrait mieux se passer.
Ça sera
on vous retrouve
tour.
La semaine prochaine sur Gameblog pour un autre podcast. On vous fait des bisous. À bientôt, ciao.
Ciao.
Salut.